Vous allez entendre un message de William Branham prêché le 18 juin 1961 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Ce message s'intitule Apocalypse, chapitre 5.
Shaking their heads that indeed it's cancer. Virus and cancer is cancer. So the intern came in and he taken a specimen of it. He said, that without a doubt is cancer. I said, but sister, if God heals you once of cancer, let it be whatever it may be. Maybe those men are right. They're trained men in that field to tell.
Premièrement, pendant un court instant, vous entendrez Frère Branham prêcher en anglais. Puis vous entendrez la traduction française de ce message.
So I said, but if God could answer prayer up there to stop the hemorrhage, God could answer prayer, take those big things out of your mouth, let it be whatever it may be, can't God stop it right here? She said, amen. And her husband's sitting there, and she said, that's what I'm riding on right now. God will stop us. And I prayed for her, and they've taken the specimens out to test it and come back negative. All of them said it was cancer, see? So the thing is, friends, that he is God, and he answers prayer. And we're so glad that he visits us at this little humble tabernacle. Not much to look at, the little old boards we throw up here together.
Je suis heureux d'être de nouveau au tabernacle ce matin et de pouvoir vous apporter de bonnes nouvelles, vous montrant combien le Seigneur Dieu a été bon pour nous. Dimanche dernier, la plupart d'entre vous étiez ici lorsque je racontais la vision de ce serpent tué au centre. Cette vision s'est réalisée à la lettre, moins de 24 heures après avoir été annoncée ici à la chaire. C'est glorieux de voir comment le Seigneur agit. De toute ma vie, et j'ai 52 ans, je n'en ai jamais vu une seule faillir. Toutes se sont parfaitement réalisées à la lettre. Et je me sens beaucoup mieux. Maintenant, il y a tout ce que j'ai dit au sujet de cette accusation, ou plutôt, cela venait d'hommes craignant Dieu, ayant un cœur droit. Quand mon ministère devint un peu trop surnaturel, ils commencèrent à penser que j'étais le Seigneur Jésus. Et ils en firent une petite doctrine. Mais ce fut immédiatement stoppé. Merci Seigneur pour cela. Et aussitôt que je me sortis de cette affaire et que je laissais le Seigneur s'en occuper, en 24 heures, tout fut réglé. C'était fini. Cette affaire m'a remué et rendu un peu nerveux, mais je m'en remettrai peu à peu. Bien sûr, ce fut un choc pour moi, mais je vais bien malgré tout. Nous avons eu de grandes victoires cette semaine et je veux vous raconter quelque chose. Si j'avais écouté ce que le Seigneur me disait, cela ne serait jamais arrivé. Il y a 4 ans, il m'a dit, ma femme qui est ici présente quelque part dans l'auditoire, ainsi que mon fils qui était tout à l'heure sur la plateforme, et beaucoup d'autres, m'ont entendu dire à plusieurs reprises, c'est la dernière fois que j'utiliserai le discernement. Voyez-vous, cela devint ainsi, j'essaye de vivre vraiment près de Dieu. Et en agissant ainsi, naturellement, cela met en évidence quelque chose, cela embrouille quelque peu les gens, si bien qu'ils ne savent presque plus que penser. Et avec cette affaire d'impôt que nous avons eue là-bas, il n'y aurait jamais eu de problème si j'avais simplement écouté le Seigneur. C'est toujours quand je lui désobéis que j'ai des ennuis. Si seulement j'écoutais attentivement et marchais avec lui, et alors parfois, le ministère devient si surnaturel que j'ai peur de me mettre à courir sur cette autre ligne. Mais je ne veux pas dire, maintenant, je veux que tout le monde comprenne bien ceci. Je ne veux pas dire que je pourrais m'éloigner du Seigneur, mais je ne veux plus exprimer quelque chose ayant trait au surnaturel. voyez-vous, tel que le discernement est des choses de ce genre. Le Seigneur a été bon pour nous pendant ce temps. Il a suscité frère Neville, qui est la parole de prophétie. Il y a aussi frère Higginbottom et beaucoup d'autres frères qui, au moyen de dons spirituels dans l'Église, accomplissent des miracles. Laissez-moi juste vous donner un témoignage. Sœur Opal Weaver, je ne sais pas si elle est avec nous dans l'Église ce matin ou pas. Êtes-vous ici, Sœur Opal? Il se peut que je ne la voie pas. Or, il y a plusieurs années, elle se mourait du cancer. Et le cancer se trouvait dans les glandes de la femme et se prolongeait jusque dans ses reins. On ne lui donnait plus que la nuit à vivre. Elle était descendue bien bas, et je suis allé prier pour elle. Une vision apparut alors, elle fut complètement guérie. Amen. Cela fait environ 15 ans. Elle est souvent venue parmi nous pendant des années et des années. L'autre jour, elle se mit à avoir très mal à la gorge, et elle a commencé à saigner de la gorge. On lui suggéra de voir immédiatement le médecin. C'était à l'époque où j'étais au Canada. Elle appela donc frère Neville, et frère Neville alla la visiter, prenant avec lui frère Higginbottom. Je ne pense pas que frère Higginbottom soit ici, ou peut-être que oui. Frère Ruth Higginbottom est l'un de nos anciens administrateurs. C'est un frère très gentil. Est-il ici? Ainsi, ils allèrent prier pour cette sœur, et quand ils l'eurent fait, jusque-là, n'avait fait que perdre son sang. Je ne sais pas pendant combien de temps exactement, mais pendant quelques jours, 2 ou 3 jours, elle n'avait fait que cracher du sang. Ainsi, frère Neville pria pour elle, et depuis lors, elle ne cracha plus jamais une goutte de sang.
Amen.
C'est vrai. Et ensuite, elle eut 2 tumeurs, ou quelque chose comme cela dans le palais. Des sortes d'ampoules qui sortaient de son palais formant de grosses bosses, et ne lui laissaient aucun repos. Elle dit qu'elles avaient environ la grosseur de la moitié d'une noix, et qu'elles s'étaient trouvées dans sa bouche pendant plusieurs jours. Et frère Higginbottom, je n'arrive pas à prononcer très bien ce nom allemand. Frère Ruth, pardonnez-moi. Mais de toute façon, je me trompe peut-être dans ceci. Je crois qu'il a le don de parler en langue et celui de l'interprétation des langues. Et cette fois-là, il posa sa main sur le visage de Sœur Opal. Ainsi, elle me dit, frère Branham, pas hier soir, mais immédiatement après, ces choses disparurent de mon palais.
Amen. Amen.
Immédiatement. Puis, les médecins vinrent et examinèrent sa gorge, et ils déclarèrent qu'elle devait aller à l'hôpital parce qu'elle avait un cancer à la gorge. Ainsi, ils la transportèrent à l'hôpital, et je ne savais même pas qu'elle y était, avant de rencontrer notre bon pasteur, frère Neville. Alors que je me rendais à l'hôpital, il me l'annonça. Je suis allé la voir, et son mari était assis près d'elle. Et 4 ou 5 médecins étaient déjà venus, et après avoir fait des tests, ils secouèrent la tête en disant que c'était vraiment un cancer. L'un d'eux déclara, si j'ai déjà vu un cancer, ce n'était bien. Ainsi l'interne entra, examinant le prélèvement, il déclara que sans aucun doute, il s'agissait d'un cancer. Mais je dis, sœur, si Dieu vous a une fois guéri du cancer, eh bien, quoi que vous ayez, peut-être que ces hommes ont raison, ils sont assez instruits dans ce domaine pour pouvoir dire que si c'est un cancer, si ça a l'apparence d'un cancer ou quoi que ce soit d'autre, ils ont été enseignés dans ce but-là. Cela ressemble au cancer, c'est pourquoi ils disent, c'est un cancer. Et je dis, c'en est probablement un. Mais elle ne voulait pas croire que c'était le cancer. Et j'ajoutais, mais si Dieu a pu répondre à la prière là-bas et arrêter l'hémorragie, s'il a pu répondre à la prière et faire disparaître ces vilaines choses de votre bouche, quoi que cela soit, Dieu ne peut-il pas l'arrêter immédiatement? Elle répondit, Amen. Son mari était assis là et elle dit, c'est là-dessus que je me repose. C'est que Dieu va arrêter cela. Puis j'ai prié pour elle. Ils firent des prélèvements pour les examiner et les résultats furent négatifs.
Amen. Amen.
Pourtant, tous disaient que c'était le cancer. Voyez-vous, ainsi c'est en fait, mes amis, qu'il est Dieu et qu'il répond à la prière.
Amen.
Et nous sommes si heureux qu'il nous visite ici dans cet humble tabernacle, qui n'a pas grand-chose pour attirer les regards. Ce sont de vieilles planches que nous avons mises les unes à côté des autres il y a de nombreuses années pour nous servir d'abri, ou plutôt de toit, et nous protéger ainsi de la pluie et de la neige. À cause de l'effort de plusieurs, beaucoup sont en vie aujourd'hui. Et nous en sommes très reconnaissants. Nous sommes reconnaissants pour nos administrateurs, nous sommes reconnaissants pour nos diacres, nous sommes reconnaissants pour notre assemblée, nous sommes reconnaissants pour notre pasteur. Nous sommes reconnaissants pour chaque don qu'il a donné dans l'Église, et nous lui demandons de donner à ces hommes l'entendement pour qu'ils ne partent jamais du mauvais côté, mais qu'ils restent ainsi parfaitement au milieu de la route, sans jamais chercher à être exaltés. Car quoi que vous fassiez, ça serait fait de vous à ce moment-là. Voyez-vous, restez simplement humble avec cela, et voyez maintenant que pour ces malades et ces affligés qui viennent pour que l'on prie pour eux, Dieu a pourvu pendant que je me repose une année ou deux. Voyez-vous? N'est-ce pas réconfortant? Ne devrions-nous pas en être reconnaissants? Dieu ne reste jamais sans témoin, et nous en sommes heureux. La semaine prochaine, Dieu voulant, j'ai l'intention de partir avec mes deux filles qui viennent de prendre leurs vacances scolaires. Ainsi, je vous demande de prier pour nous. Ma fille aînée, qui est à l'école secondaire, désire voir où Paul Revere a fait sa chevauchée de minuit et l'église où il est parti. Je crois que c'est en Nouvelle-Angleterre. Nous voulons y aller et voir cela. Ensuite, j'ai toujours voulu voir le vieux bateau qu'on appelle Ironside. Combien ont déjà entendu la poésie qui lui est dédiée? De tout ce que je connais, c'est ma préférée. Depuis que je suis devenu chrétien, c'est celle que je préfère. Que je me mets à la lire, je suis saisi par l'émotion, alors je m'assieds, puis fais quelques pas et j'y reviens. Comment pourriez-vous le faire couler après? C'est comme si vous tuiez un cheval qui aurait été le moyen de vous faire vivre, vous et votre famille. Je ne peux pas concevoir un tel acte. Non, ne le coulez pas, ne faites pas cela. Quand les boulets de canon britanniques l'atteignirent, ils rebondirent sous ces vieux flancs de chêne. Je ne verrai pas d'un bon œil qu'on le coule. Donnez-le plutôt au Dieu de la tempête, l'éclair et le grand vent. J'aime vraiment cela. Et ensuite, nous redescendrons. Monsieur Kennedy ne nous a pas invités, mais nous avons vraiment l'intention de voir la Maison Blanche pendant que nous y sommes. Je l'ai visité plusieurs fois, et les enfants désirent aussi la voir. Ensuite, nous reviendrons à la maison, Dieu voulant. Ainsi, priez pour nous. Nous prions pour tous nos bien-aimés qui sont en vacances. Beaucoup d'entre eux vont partir en voyage dans différents endroits. Certains sont au Kentucky depuis ce matin, dans le Tennessee, à différents endroits. C'est pourquoi nous prions pour eux. Il y avait quelque chose d'autre que je voulais vous annoncer. Oh oui, il y aura un service de baptême, tout de suite après ce service. Et ensuite, je crois qu'il y aura la consécration de bébé. C'est ce que le frère m'a dit. La consécration de bébé, il y a tellement de choses que nous devons... Que dites-vous? Je n'ai pas envie d'assumer les deux services. Vous voyez, j'en prends un et frère Neville prend l'autre. Je ne peux pas... Ce n'est pas que nous sommes deux ici. Pourquoi faire travailler l'un jusqu'à épuisement complet? N'est-ce pas, frère Neville? Exactement. Et Doc m'a demandé de vous rappeler à tous vos engagements en faveur du tabernacle de l'église qu'ils envisagent de construire, aussitôt qu'ils auront réuni assez de fonds. Ainsi, il me semble que vous m'avez dit quelque chose à ce sujet, que vous m'avez parlé de la consécration des bébés. C'est cela. Nous l'aurons tout de suite après avoir terminé ce service. Ces morceaux de tissu sont là pour que l'on prie sur eux, je suppose. Très bien, nous le ferons ensemble. Maintenant, avant de nous approcher de la parole, combien aime la parole? Oh, c'est comme vivre sur la montagne. Vous avez pu remarquer, depuis dimanche dernier, ce que signifie agir à la manière de Dieu. quand j'ai vu que c'était un esprit qui était venu parmi ses chers frères, il est impossible à un homme naturel d'enlever cela. Ainsi, la seule chose qui était à faire, c'était de l'abandonner au Seigneur. Et en quelques heures, tout fut terminé. Maintenant, pasteur, alors que je m'en vais, moi qui suis aussi ton assistant dans l'œuvre du Seigneur, pour reprendre la parole de Paul, je te conjure devant Dieu et ses anges, voyez-vous, et à cette église ici, je dirais que c'est un parfait exemple de ce qu'il faut faire si quelqu'un enfreint l'ordre dans l'église. Voyez-vous, si quelque chose arrive dans l'église qui ne soit pas juste, alors que la personne qui sait que ce n'est pas juste aille trouver cette autre personne, et si celle-ci ne veut pas se réconcilier, prenez un témoin ou deux et retournez vers elle pour tenter de la réconcilier ou pour rectifier la chose. Maintenant, écoutez attentivement. Ceci est aussi enregistré. Si cela ne marche pas, ne laissez jamais un petit isme ou un petit quelque chose, un petit ressentiment surgir entre vous. Débarrassez-vous-en immédiatement, parce que c'est votre petit, ce sont les petits renards qui abîment le raisin. Ainsi, gardez l'or du chemin. S'il y a un petit sentiment étrange, allez-en parler à la personne. Dites, j'ai tort, je ne me sens pas en ordre vis-à-vis de vous. Ou quelque chose comme ça, aidez-moi à prier pour cela afin que je devienne meilleur. Car nous ne voulons rien d'autre au milieu de nous que le Saint-Esprit pur et non frelaté. C'est tout ce que nous voulons. Alors les dons et autres se manifesteront correctement et tout marchera bien. Pourquoi avoir une demi-église alors que vous pouvez en avoir une entière? Pourquoi c'est un substitut alors que les cieux sont remplis de l'authentique Saint-Esprit? Voyez-vous, vous ne voulez pas cela. Ainsi, si un petit sentiment étrange apparaît parmi vous, d'un membre vers l'autre, allez vers cette personne. Vous dites, « Oh, ils m'ont fait !» C'est, souvenez-vous que ce n'est pas si vous avez un grief contre ce frère, mais si le frère a quelque chose contre vous, voyez-vous. Allez vers lui, réconciliez-vous, dites-lui que vous avez eu un sentiment étrange à son sujet, et que vous voulez devenir amis. Priez, allez à l'autel et chassez la chose loin de vous. Satan va vous attaquer constamment jusqu'à ce que vous ayez fini votre vie sur la terre. Souvenez-vous-en, vous n'aurez jamais un moment sans avoir à combattre, parce que vous êtes engagé dans une bataille. Avez-vous demandé de venir à Christ comme on va à un pique-nique? Alors vous serez assurément surpris, parce que c'est une bataille constante. Je suis dans le ministère depuis 31 ans et j'ai combattu pour chaque centimètre de terrain. C'est vrai, Israël dut combattre pour chaque centimètre de terrain. La Palestine leur fut donnée, mais ils durent combattre pour chaque centimètre de terrain qu'ils allaient obtenir. Maintenant, souvenez-vous que si quelque chose arrive dans l'église, laissez le pasteur, si vous devez aller chercher le pasteur pour le conduire vers la personne, et qu'elle ne veut toujours pas écouter, alors exposez-le, exposez la chose devant l'église. Donnez-leur un délai pour se réconcilier, peut-être d'un dimanche à l'autre. Et s'ils ne veulent pas écouter l'Église, alors la Bible dit qu'ils soient comme un païen et un publicain. Voyez-vous, aussi longtemps qu'ils sont protégés par l'Église, Satan ne peut pas les atteindre. Mais quand l'Église les délie de la protection de l'Église et du sang de Christ, alors Satan commence à s'occuper d'eux. Cela les conduira directement à la réconciliation. Voyez-vous, comprends-tu cela, pasteur? Oui, monsieur, c'est la chose qu'il faut toujours se souvenir de faire, c'est de se réconcilier. Venez à Dieu et allez-y à la manière de Dieu. Qu'est-ce que cela nous prouve? Deux ou trois de nos frères savent que j'étais la victime de ceci pendant 2 ou 3 ans. C'est vrai, mais j'en suis arrivé au point où je me suis dit finalement que j'allais aimer ces frères suffisamment pour qu'ils ne puissent pas se défaire de cet amour. Je pris des témoins, mais cela ne servit à rien. Alors j'ai dû venir le dire devant l'Église. De la plateforme dimanche dernier, j'ai dit, je ne veux plus en entendre parler. J'en suis libéré, je l'ai abandonné à Dieu. Voyez-vous? Et je le lui ai remis, et immédiatement, cela montre que ces gens étaient appelés. Maintenant, s'ils n'avaient pas été, lorsqu'ils reçurent cette remise à l'ordre scripturaire, si un homme ne peut pas supporter une remise à l'ordre scripturaire, s'il se met en colère et explose, cela montre qu'il n'est pas juste avec Dieu. C'est vrai. Mais un véritable saint de Dieu sera réconcilié avec Dieu par la parole. C'est vrai, et la parole est le maillon correcteur. Ses frères devraient être très reconnaissants à Dieu de ce que, voyez-vous, la Bible a dit que de faux Christ apparaîtraient dans les derniers jours et qu'ils séduiraient même les élus, si c'était possible. Mais ce n'est pas possible. Non, monsieur, les élus ont été préordonnés. C'est pourquoi ils ne seront pas séduits. Vous voyez, ainsi, aussitôt que ses frères, le jour suivant, ils vinrent à la maison, ils commencèrent à me montrer certains passages de l'Écriture. Alors le Saint-Esprit, par l'Écriture, condamna simplement tout ce qu'ils disaient. Voyez-vous, ainsi c'était là. Ils virent, c'est alors qu'un groupe élu entra dans la présence de Dieu. Je suis si reconnaissant pour de tels gens. Oui, monsieur, ce sont de vrais hommes. Quand vous pouvez voir un homme dont il est prouvé qu'il est dans l'erreur, cela montre qu'il veut être un chrétien lorsqu'il s'avance à l'heure et dit « J'ai tort, c'est un véritable chrétien ». Mais si cet homme explose et s'esquive en disant « Bah, ce n'était rien », et ainsi de suite, prenez garde, frère. Vous pouvez voir tout de suite qu'il est tombé sous le coup de la condamnation, parce qu'il n'était pas des nôtres. Pasteur, venez toujours à cette parole, et cela marchera chaque fois. Mais vous devez rester avec la parole. C'est la raison pour laquelle, quand je viens, maintenant je n'ai plus de discernement aux États-Unis, et je n'ai plus l'intention d'en faire pour le reste de ma vie, seulement outre-mer et à l'étranger. Bien sûr, en tant que don, il y aura toujours un don prophétique, mais je le garderai pour moi. Et j'agirai autrement, parce que le jour est déjà trop avancé maintenant pour... Nous sommes trop proches de la fin des temps. Mais à l'étranger, il suffit d'avoir un ou deux cas sur la plateforme, et frère, laissez-moi vous dire que hop, les voilà partis. Mais par la suite, viennent les imitations charnelles. Oh là là, c'est lamentable. Regardez, je vais dire, combien y a-t-il ici de pentecôtistes? Levez la main. Très bien. Vous, pentecôtistes, regardez ici. Il y a quelques années, le Saint-Esprit est vraiment tombé sur vous, et vous avez commencé à parler en langue. C'est vrai. Mais qu'a fait le diable? Il est venu, et on a fait une imitation charnelle. Il a fait quelque chose qui n'était pas juste, en poussant les gens à parler en langue, leur faisant dire certains mots pour les faire parler en langue, etc. Et un homme qui vit avec la femme d'un autre homme et toutes sortes de choses semblables. Certains sont des buveurs, des fumeurs et tout le reste, et néanmoins, ils parlent en langue. Dans quel but l'a-t-il fait? Pour que la véritable trompette rende un son confus pour les gens. Alors qui peut se préparer au combat? Voyez-vous, quand ceci arrive, nous avons eu des gens dans l'auditoire, il y en a un qui m'a précédé au Canada et que les agents ont dû arrêter, car c'était un homosexuel. Voyez-vous, il disait, « Eh bien, Dieu m'a donné le don de discernement. Alléluia, j'ai le Seigneur m'a révélé qu'il y avait quelqu'un ici du nom de John. » Puis un matin, nous avons eu aussi la visite d'une femme, vous en souvenez, qui déclara, « Le Seigneur m'a donné le même don. » Je répondis, « Très bien. » Elle dit, « J'aimerais avoir l'occasion de le démontrer. » Je dis, « Voici la plateforme. » Et vous avez vu ce qui est arrivé. C'est de la pure psychologie de masse. Mais quand vous avez vu Sœur Snyder s'avancer, que cette femme lui a dit qu'elle avait de l'arthrite, c'était fini. Je dis, ce n'est pas ce qui ne va pas chez cette femme. Elle est tombée et s'est cassée la hanche. Et j'ajoutais, elle n'est même pas ici. Bien sûr, Sœur Snyder n'entendait pas très bien. Elle dit, la chose qu'elle avait aussi, c'était, je crois, une tumeur à l'estomac ou quelque chose comme cela. Je lui dis, c'est de cela qu'il s'agit. Vous en parlez tout le temps, frère. Voyez-vous, c'est simplement pour montrer à l'Église qu'il y a des imitations charnelles. Voyez-vous. Et qu'est-ce que cela produit? Cela fait que la véritable trompette rend. Quand j'étais au Canada, ils se saisirent de cet homme. Ils allèrent là-bas, et alors que cet homme se trouvait parmi un groupe de Norvégiens, il dit, « Le Seigneur me révèle qu'il y a ici quelqu'un, dans une assemblée environ 10 fois plus grande que celle-ci, quelqu'un du nom de John, peut-être Jonas, Joan, dans cette direction-là, je crois. Non. » C'est plutôt dans cette direction, par ici. Bien sûr, dans une région habitée par des Norvégiens, tous, ou en tout cas le 90% s'appellent Peterson, Carlson, John, Johannes. Forcément, cela doit s'adresser à quelqu'un qui est là. Puis, le Seigneur me dit que quelqu'un souffre du dos. J'ai des douleurs dans le dos. Quiconque a été élevé dans la connaissance de l'Écriture sait que c'est de la psychologie. C'en est assurément. Mais regardez ce que cela va faire. Cet homme fut ensuite pris à cet endroit par le FBI qui partit d'ici pour aller le passer là-bas, la police royale montée. Puis l'association pastorale est venue vers moi, c'était un homosexuel. Les gens disent probablement que Frère Branham, c'est lui-même. et que c'est ainsi qu'il procède. Voyez-vous, qu'est-ce que cela produit? Cela fait que la trompette rend un son confus. Voyez-vous, exactement. C'est toujours ainsi. Essayez de faire de telles choses afin de donner un son confus. C'est là l'œuvre de Satan. Mais maintenant, ne vous éloignez jamais de cette parole. Souvenez-vous-en, je vous conjure devant Dieu de rester avec cette parole. Ne vous éloignez jamais d'elle. Et si de telles choses arrivent, souvenez-vous qu'il y a l'authentique chaque fois que vous avez un faux. S'il y a un faux dollar, cela montre qu'il existe un dollar véritable qui a servi de modèle. Quand vous entendez un hypocrite parler en langue, vous ne pouvez pas dire qu'il a le Saint-Esprit, mais souvenez-vous qu'il imite un véritable oracle, qui lui a effectivement le don de parler en langue. Quand vous voyez ces choses fausses, souvenez-vous qu'elles ont été copiées sur la véritable. Dieu est le créateur de toutes bonnes choses, mais Satan imite ses dons. Eh bien, si je continue avec cela, nous n'arriverons pas à notre leçon. Ne croyez-vous pas? Frère Branham, excusez-moi une minute. Oui, frère. Un homme de l'assemblée adresse la parole à frère Branham. Je crois que je n'étais pas ici dimanche dernier, et j'ai eu vent de ce dont vous parliez, il y a quelques mois. J'étais très troublé à ce sujet. J'ai eu l'impression que je devais venir vous en parler, ou en parler à frère Neuville. Mais j'ai aussi l'impression que vous saviez pourquoi. Et ce matin, que je suis entré dans le tabernacle, je ne savais pas ce qui était arrivé, et un cher frère est venu vers moi pour me demander de lui pardonner. Je pense que c'est cela, avoir un esprit semblable à Christ. Frère Branham dit « Amen ». Et je pense que c'est une chose très louable de la part du frère. Frère Branham répond « Oui, monsieur ». Il m'a demandé de lui pardonner parce qu'il avait essayé de m'apporter cette doctrine que je ne voulais pas accepter. Et ce matin, il m'a demandé de lui pardonner, je l'ai fait dans le nom de Jésus. Frère Branham dit « Amen ». Merci, frère Ben Bryant. C'est exactement, je suis content que vous ayez dit cela, frère Ben. Vous voyez, parce que cela, ces hommes ont aidé partout pour rétablir toutes choses. C'est du véritable christianisme. C'est le christianisme à l'œuvre. Quand vous avez tort, allez et admettez que vous avez tort. Levez-vous et dites, j'ai tort. Voyez-vous, alors pardonnez-lui. Mais un homme qui essaye de camoufler cela, c'est qu'il y a quelque chose qu'il cache. Non, monsieur, j'aime. C'est pareil à un certain médecin ici en ville. Je ne vais pas dire cela de lui, mais il avait un petit quelque chose qu'il voulait que je fasse, vous savez. Et je dis, oh non, doc, vous ne pouvez pas soudoyer Dieu. Vous devez le faire par-dessus la table. C'est vrai. Laissez-le aller comme cela. Bien sûr, cet homme était parfaitement innocent d'essayer de faire quelque chose de mal. Il a simplement pensé que ce serait un bon moyen pour lui permettre d'obtenir un morceau de terrain. Il n'essayait pas d'agir mal, il essayait de le faire juste, mais il voulait simplement, il dit qu'il savait comment il pouvait aller quelque part et faire en sorte que quelqu'un fasse une certaine chose pour que cet homme en soit influencé. Mais vous n'agissez pas ainsi, allez droit au but, restez exactement avec la parole, alors vous l'aurez, restez exactement avec la parole. Dieu l'a béni et a fait de grandes choses pour lui. Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, inclinons nos têtes pour la prière. Combien aimerait qu'on se souvienne d'eux dans la prière? Je connais une dame qui est assise ici dans une chaise roulante qui aimerait certainement qu'on se souvienne d'elle. J'espère que... Et cette sœur ici est tous... Oh, regardez, il y en a partout. Maintenant, mettons tout de côté et entrons dans l'adoration. C'est pour cela que nous sommes ici. C'est pour adorer pendant les 35 ou 40 prochaines minutes. Maintenant, Seigneur, nous nous tenons tranquilles devant toi, sentant que notre grand Josué, le Saint-Esprit, notre divin conducteur de ce jour, de même que Josué tranquillisa les gens devant Moïse et dit, nous sommes plus que capables de prendre le pays, parce qu'il ne regardait pas aux Amalécites et aux Amoréens, mais il regardait à la promesse divine que Dieu leur avait donnée. En ce jour de trouble, et dans la condition dans laquelle le monde se trouve, en ce beau matin de sabbat, nous nous tenons tranquilles devant toi, sans broncher au milieu de toutes les imitations, les comparaisons charnelles, et en présence de tout le mal et des esprits égarés, regardant à la parole de Dieu et proclamant que nous sommes plus que vainqueurs. Dieu a déclaré qu'il aurait une église qui serait sans tache ni ride, et nous savons qu'un jour nous verrons cette église. Nous luttons, croyons que nous sommes membres de cette grande congrégation de Dieu, née de nouveau dans l'église, aujourd'hui sur la surface de la terre. Nous nous approchons solennellement de Dieu dans le nom du Seigneur Jésus. Et alors que nous nous approchons humblement, nous te demandons d'enlever de nos esprits et de nos cœurs toutes les choses du monde, toutes les peines de la vie et la fatigue. Et puisses-tu, ô Dieu, disposer nos cœurs à l'adoration, afin que nous puissions t'adorer à travers l'écoute de ta parole. De même que Jean, comme nous le verrons dans notre leçon ce matin, a beaucoup pleuré parce qu'il n'y avait pas d'homme digne de prendre le livre, nous pourrions aussi pleurer dans nos cœurs ce matin, Seigneur, car il n'y a personne qui soit digne d'ouvrir ce livre. Mais Jean ne pleura que pour peu de temps. Il fut vite consolé, car l'agneau s'avança et prit le livre. Ô, agneau de Dieu, viens ce matin, prends le livre et ouvre-le pour nous, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Dans notre insuffisance, nous attendons d'être. Satisfais-nous par ta présence et par ta parole. Beaucoup de mains se sont levées vers toi, ô agneau de Dieu. Nous savons que tu connais chaque cœur et que tu connaissais leur intention. Tu es Dieu aujourd'hui autant que jamais et tu seras toujours le même, parce que tu es parfait et infini et que tu ne peux changer. Nous te demandons ce matin de satisfaire aux requêtes de chacun. Accorde-le, Seigneur, afin qu'ils soient tous satisfaits quand ils quitteront le bâtiment d'avoir été en présence de Dieu et de repartir avec le désir de leur cœur. Seigneur, n'oublie pas de m'inclure aussi à ce nombre, car je te le demande au nom de Jésus. Amen. Maintenant, ouvrons notre bien-aimé livre en comptant que l'agneau ouvre les seaux ou nous ouvre le livre. Nous en sommes au 5e chapitre du livre de la révélation de Jésus-Christ. Maintenant, à mes amis qui se trouvent dans différentes parties du monde et qui entendront ceci sur bande magnétique, je dirais que je dois apporter des doctrines, etc. pour... Or, tout homme qui n'a pas de doctrine n'a pas de ministère. Ainsi, si vous ne pensez pas que votre congrégation devrait entendre cette bande, alors ne lui permettez pas de la voir. Je ne fais qu'exprimer ma propre opinion, mes propres sentiments et ma propre révélation de la parole de Dieu. Il y a quelques mois, nous sommes revenus en arrière pour établir une base, ou plutôt il y a quelques jours, nous avons établi une base au chapitre 4. Nous avons passé du chapitre 3 au chapitre 4, et dimanche dernier, nous avons passé du chapitre 4 au chapitre 5. Et aujourd'hui, nous voulons établir une base au chapitre 5 et poser une fondation pour le chapitre 6 à venir. Aujourd'hui, je désire placer les Écritures dans l'ordre pour que, dans le futur, peut-être, je ne sais pas quand ce sera, mais si le Seigneur y pourvoit, j'aimerais avoir une fois 7 jours de réunion au tabernacle pour traiter des 7 sceaux. Nous avons eu les 7 âges de l'Église, et maintenant, nous allons prendre 7 soirs pour les 7 sceaux mystérieux de Dieu, ouvrant un sceau chaque soir. Jusqu'au 7e sceau. Je ne sais pas que le Seigneur pourvoira cela, mais s'il le fait, je vais simplement préparer la base ce matin. En arrivant au dernier verset de cette partie de l'Écriture, ici, nous inclurons les 70 semaines de Daniel, montrant que les 3 dernières semaines sont liées au jubilé pentecôtiste qui conduit les gens au dernier sceau afin d'être prêts ensuite pour que l'agneau ouvre les sceaux. Souvenez-vous que les sceaux sont quelque chose de mystérieux. Le livre était scellé sur le dos par 7 sceaux qui n'étaient même pas révélés dans la Bible, qui n'étaient même pas révélés dans le livre. Ces choses ne sont même pas écrites dans la Bible. Mais si quelqu'un veut en donner l'interprétation, cela devrait correspondre au reste de la Bible. Oh, je suis sûr que vous en recevrez une bénédiction, ou du moins je pense, j'espère que ce sera le cas. Je suis juste arrivé à enfiler ma veste à temps pour arriver ici ce matin, parce que j'étais assis, et alors que je lisais, le Saint-Esprit m'a inondé de sa bonté. Quand je vis cela, j'ai dit, « Oh, si seulement je pouvais la porter là-bas, telle que tu me l'as donnée ici, nous passerions tous un moment vraiment béni. » Mais il se trouve que lorsque vous vous avancez devant les gens, vous ne vous sentez pas comme lorsque vous êtes seul en prière quelque part. Mais maintenant, en recommençant au premier verset, nous voyons, pour reprendre où nous en étions restés dimanche dernier, nous voyons ici que Paul nous a dit dans Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14, que nous avons le gage de notre salut, le gage de notre rédemption, car c'est le Saint-Esprit qui est le gage de notre rédemption, et ces 2 prochaines semaines d'enseignement seront entièrement basées sur la rédemption. Sur la rédemption, non sur la justification, sur la rédemption. Non pas sur l'office de médiateur, d'intercesseur, mais sur ce qui a été racheté. Oh, sur un héritage qui avait été perdu ou confisqué et qui a été racheté pour nous. Nous voyons de quelle manière tout cela est arrivé et que Dieu l'avait projeté avant même que le monde existe. Nous voyons aussi combien l'Église est solidement ancrée. Je pense que le moment est arrivé où nous devons savoir quelle position avoir. Comment pouvez-vous faire quelque chose sans avoir foi en ce que vous faites? Vous devez avoir la foi. Et mon but en faisant ceci avec cette Église, c'est de donner aux croyants la foi et la confiance dans ce qu'ils affirment parce que c'est la parole du Seigneur. Alors, aussi longtemps que c'est solidement ancré au travers des Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse, en avant et en arrière, en haut et en bas, ne laissant au diable aucune possibilité de s'y infiltrer, vous avez une confiance parfaite. Voyez-vous, vous connaissez votre position. Ce serait pareil avec notre sœur qui est dans cette chaise roulante, ou peut-être d'autres qui sont malades et affligés. Si vous pouvez avoir une parfaite compréhension que c'est le bon plaisir de Dieu de vous guérir, il n'y a pas assez de démons dans le pays pour vous garder malade. C'est vrai, quand vous comprenez que c'est le bon plaisir de Dieu de vous guérir, et qu'il l'a fait pour vous, et qu'alors vous comprenez que vous devez faire une certaine chose. Par exemple, si je vous disais de tout mon cœur, si vous étiez très affamé et que vous ayez une entière confiance en moi, me considérant comme une personne digne de confiance, et que je vous dise où il y a 1000 $, comment y arriver, quelle route prendre, exactement où aller, et que vous compreniez exactement où se trouve l'argent, eh bien, vous commenceriez tout de suite à vous réjouir, comme si vous aviez déjà l'argent, si vous croyez en moi. Ainsi, voyez-vous, avant même de vous sentir autrement, vous pouvez être tout aussi heureux de votre guérison en disant que vous l'avez reçue, parce que vous êtes entièrement sûr que vous l'avez reçue. Parce que vous avez confiance en celui qui l'a promis. Voyez-vous, votre confiance est basée sur le fait qu'il ne peut mentir. Et vous aviez exactement où cela se trouvait. Alors, vous avez confiance, et c'est comme si vous l'aviez déjà, parce que c'est votre foi qui est le gage de votre rédemption. En d'autres termes, vous cherchez à être libéré de la maladie. Et votre foi est la substance de ce, ou plutôt c'est le gage de votre guérison. Aussi longtemps que quelque chose dans votre cœur dit « Je suis l'Éternel qui te guérit », c'est la même valeur, c'est tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez commencer à vous réjouir peu importe ce qui arrive. Si votre état empire, vous serez toujours aussi heureux que si vous étiez parfaitement bien, parce que vous avez l'assurance que c'est terminé. Maintenant, combien comprennent cela? Levez la main, vous y êtes. C'est l'évidence des choses que l'on ne voit pas. Maintenant, nous voyons au commencement du chapitre que le chapitre 5 n'est qu'un trait d'union. C'est une connexion qui relie la dernière partie de l'âge de l'Église du chapitre 3 à... Le chapitre 4 nous dit que Jean fut enlevé dans le ciel... Et le chapitre 5 prépare pour ces... Où êtes-vous allé pendant les sept âges de l'Église? Où vous êtes allé pendant les sept âges de l'Église? Puis Jean fut enlevé dans le chapitre 4, et dans le chapitre 5, il prépare simplement le décor en vue de l'ouverture des sept sceaux. De même qu'il l'a fait au chapitre 1er de l'Apocalypse, en préparant le chemin aux sept âges de l'Église, qui se tenait là, au milieu des sept, chandelier d'or, et en l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, maintenant il prépare l'ouverture des sept sceaux de la rédemption. Voyez-vous, c'est ce qu'est le chapitre 5. C'est la raison pour laquelle je dois en quelque sorte le lire et ensuite partir de là, le commenter en donnant d'autres passages de l'Écriture, parce que ce n'est pas quelque chose qui arrive verset après verset. Cela sert de préparation à quelque chose qui doit arriver. Et si vous recevez la préparation, vous serez alors prêt pour voir cela. Et c'est ainsi pour la foi ou n'importe quoi d'autre. Maintenant les sceaux, j'ai inscrit ici quelques passages de l'Écriture et quelques commentaires. Dans Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14, si vous voulez l'inscrire, il est dit que nous avons maintenant le Saint-Esprit, le gage de notre héritage. En d'autres termes, c'est l'assurance. Le gage est l'acompte ou l'assurance que nous avons été reçus en Christ. C'est l'espérance bénie et l'assurance que nous avons la vie éternelle et que nous sommes héritiers de tout ce qu'il a racheté pour nous. Oh, pouvez-vous voir cela? Oh, quand nous avons été scellés par le Saint-Esprit, je continue à le citer parce que je ne veux pas que vous le manquiez, c'est le sceau de Dieu, témoignant que tout ce que pourquoi Christ est mort nous appartient. C'est Dieu qui déclare « Je vous ai maintenant reçu et je vous ai donné le sceau, montrant que vous attendez simplement le moment de votre entière, de votre complète rédemption. » Et ceci parce que nous avons été déjà partiellement rachetés. Comme je l'ai dit l'autre dimanche, je crois, c'est là dans cette région inférieure que le pécheur se trouve. Il est dans la boue, la saleté, la corruption, la crasse, Ils peuvent être très propres, prendre un bain tous les 4 heures, être vêtus des plus beaux habits, être de prieurs érudits, et pourtant être aussi corrompus et sales dans leur âme que les murs de l'enfer. Voyez-vous? Le chrétien, lui, s'élève au-dessus de cela, parce qu'il a le gage de son héritage ici en haut. Il est épris, relevé de cette crasse et de cette corruption. Et il marche au-dessus de cela. Oh, j'aime cela. Comme Paul Radar l'a dit une fois dans le journal, vous savez, dit-il, je chevauche là-dessus. Je chevauche simplement là-dessus. C'est là que s'en est maintenant. Assurance bénie. Jésus m'appartient. Oh, quel petit avant-goût. J'ai eu la permission de boire à la fontaine de gloire divine. Je suis maintenant un héritier du salut. Amen. J'ai été racheté par Dieu, je suis né de son esprit et lavé dans son sang. Ce n'est pas étonnant que l'on chante, c'est mon histoire, c'est là mon chant, chantant ses louanges le jour durant. Voyez-vous, nous avons été élevés au-dessus des ombres après avoir été sortis de la saleté. C'est un avant-goût. Nous avons maintenant le gage de notre héritage complet parce que Dieu a déjà retiré les racines qui étaient attachées aux choses du monde et qui nous a plantés dans un lieu élevé. Il m'a soulevé, transformé. Il a retiré de moi les choses du monde, les racines, les branches. Il m'a fait sortir du fond de la boue, de la vieille boue du péché. Il m'a planté au sommet de la colline de Sion, où je suis assis dans le verger des bien-aimés. Nous sommes maintenant les saints de Dieu, les citoyens de ce royaume. Frères et sœurs en Jésus-Christ, toute la corruption et la méchanceté sont parties de nos pensées. Nos corps sont lavés avec de l'eau pure et nos cœurs sont aspergés du sang du Seigneur Jésus. Et le Saint-Esprit est là, faisant souffler la brise à travers nos branches pendant tout le jour, ameublant la terre autour de nous pour que nos racines puissent descendre profondément. N'est-ce pas merveilleux? Le gage de notre salut. C'est notre héritage perdu que révèle ce chapitre. Notre héritage perdu qui était récupéré par notre bienveillant parent rédempteur. Dieu est descendu, a changé de forme, est devenu homme, afin de devenir un parent rédempteur humain, pour racheter un monde naturel pour un peuple naturel. Amen. C'est dire que Dieu, qui était surnaturel, est devenu naturel pour devenir un parent, parce qu'il ne pouvait pas enfreindre ses propres lois. Il dut venir suivant les règles du parent rédempteur, parce que c'est son plan et c'est ainsi qu'il l'a fait. Dieu savait que l'homme tomberait, pourtant il ne pouvait pas le faire tomber. Dieu savait que l'homme serait perdu, bien qu'il ne voulût qu'aucun périsse. Mais pour que l'attribut de Dieu puisse être manifesté envers tous les hommes, montrant qu'il pouvait être un rédempteur, qu'il pouvait être un sauveur, l'homme devait tomber. La chute était en lui et le rachat en Dieu. C'est la raison pour laquelle nous avons la nuit, c'est pour que le jour soit reconnaissable. Nous avons la maladie pour nous faire apprécier la santé. Il y a le pour et le contre dans tout. Pour en revenir à notre parent rédempteur, je désire que vous remarquiez ceci. Je suis en train de regarder ce qui est dit dans ce chapitre 5. Quand il regarde à cela, ne crains point, dans ce verset 5, ne crains point, voyez-vous, vous n'avez jamais à craindre quoi que ce soit. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau. Un agneau. Pourquoi n'a-t-il pas vu d'agneau auparavant? L'agneau était assis sur le trône du Père, à l'intérieur des gardes. Jean ne put pas voir là-dedans. Il a seulement vu ces quatre êtres vivants qui se tenaient là, ces quatre chérubins qui gardaient ce lieu saint. Nous l'avons eu dimanche dernier dans d'autres leçons, il a vu cela, mais il n'a pas pu voir ce qui se trouvait plus loin. Là, tout à coup, et d'une façon mystérieuse, un agneau apparut. Maintenant, pour montrer que ce n'était pas un agneau naturel, il est dit qu'il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Un agneau ne pourrait pas faire cela, voyez-vous. L'agneau était Christ. En d'autres termes, dans ses attributs, il était gentil et doux comme un agneau. Maintenant, remarquez que c'était un agneau rédempteur. Un agneau rédempteur comme le premier. Dieu ne peut jamais changer.
Amen.
Amen. Le premier rédempteur fut un agneau. Dans le jardin d'Éden, c'était un agneau que Dieu offrit. Et ici, dans l'Apocalypse, c'est de nouveau un agneau.
Amen.
Pour racheter quoi? La condition déchue est l'héritage déchu d'une race de gens déchus. Un agneau vient pour notre rachat comme au commencement, pour nous racheter. Racheter quoi? En vue de quoi va-t-il nous racheter? Pour nous ramener, tout ce qui est racheté, c'est quelque chose qui était premièrement perdu. C'est quelque chose qui était perdu et qui ensuite a été ramené. À quoi nous ramène-t-il cet agneau? À tout ce que nous avions au commencement. Qu'avions-nous au commencement? La vie éternelle. Nous étions héritiers du monde. Nous avions la vie. Nous ne devions jamais mourir. Nous ne devions jamais être malades. Nous ne devions jamais vieillir. Nous n'avions jamais de lassitude. Il n'y avait pas de funérailles, pas de tombe, pas de mal, pas de mort, pas de cheveux gris, pas d'épaules arrondies, pas de lamentations, pas de pleurs. Nous avions la vie éternelle. Nous avions la juridiction sur toute la terre. Nous étions tout simplement un Dieu sur la terre. Si en nous promenant, nous voyions un arbre qui ne tombait pas à sa place, nous disions, sois déraciné, placé là. Et il le faisait. Si le vent soufflait que nous ne le bougeons pas, nous disions, silence, tais-toi. Et il le faisait. Qu'est-il venu faire? Racheter tout cela pour nous.
Amen.
Oh là là, avoir à nouveau tout cela. Maintenant la nature en elle-même soupire. Attendant quoi? La manifestation des fils de Dieu.
Amen.
Elle attend que les fils de Dieu soient manifestés. Nous avons maintenant le gage de notre salut. Et nous pouvons agir en faveur de notre frère qui se meurt du cancer, nous tenir sur ce petit souffle de rédemption et prier pour lui la prière de la foi qui fera qu'un homme qui n'était plus que l'ombre de lumière, redeviendra un homme bien portant. Mais que ferons-nous quand nous aurons notre entière possession? Amen. La nature, c'est cela. La nature soupire et nous soupirons avec elle. La nature attend la manifestation des fils de Dieu, parce que la nature fut maudite avec son maître. Quand son maître fut maudit, lui qui était le plus élevé, alors la nature tomba avec le maître. Mais quand ce pharaon rédempteur est venu, alléluia, il a rajouté l'homme qui était le maître de la nature. Et toute la nature attend le grand maître. Que faisons-nous maintenant? Nous prenons une hache dans la main et abattons un arbre, si nous le voulons. Mais en ce jour-là, nous ne le ferons pas. Amen. Toute la nature attend son maître. Le maître, ce sont les fils de Dieu, à qui cette terre a été donnée. Dieu aura bien sûr ses cieux, mais ceci est donné aux hommes, Et le pardon rédempteur est venu afin de nous racheter et nous redonner ce que nous avions perdu. Comme c'est beau! Oh, je pense que c'est un agneau rédempteur. Quand l'œuvre est terminée, nous avons à nouveau toute chose. Quelle sorte de chose? Nous avons la toute-puissance. Nous avons la vie éternelle. Nous avons la santé éternelle. Nous avons la jeunesse éternelle. Nous avons la puissance éternelle. Oh, nous sommes simplement éternels avec l'éternel.
Amen.
Et nous attendons tous que ce temps arrive. Nous attendons et nous soupirons. Ce livre composé de 7 parties, de 7 plans de rédemption, nous a été apporté. C'est ce que ce livre contient. Maintenant, nous allons passer au chapitre 10 où il est parlé de cet ange puissant qui proclame quelque chose et qui avait un petit livre que Jean dut manger. Et quand Jean lui avalait et qu'il fut arrivé dans ses entrailles, il était amer. Mais dans sa bouche, il était doux. Quand vous devez le digérer, alors cela devient amer. Tout le monde est contre vous. Tout le monde vous dira que vous êtes un exalté. Vous êtes ceci ou cela, voyez-vous. Vous êtes hors de vous-même tellement c'est difficile de le digérer. Mais quand vous témoignez de sa gloire, c'est doux dans votre bouche. C'est tout, voyez-vous. Quand vous vous trouvez au milieu de l'assemblée, vous dites gloire à Dieu. Oh, quand vous êtes assiégé de toutes parts, c'est difficile. Mais que vous en êtes sorti et que vous avez la possibilité de témoigner, c'est alors doux dans votre bouche. C'est vrai, c'est le livre de la rédemption. Maintenant, nous voulons encore donner une petite illustration au verset 5, et ensuite nous passerons au verset 6. Je désire que vous remarquiez dans le plan de la rédemption de quelle manière Dieu l'a montré d'avance. Il l'a réalisé parfaitement dans Ruth et Boaz, et c'est par cela que j'ai terminé dimanche dernier. Je désire revenir là-dessus aujourd'hui sur Ruth et Boaz. Il y a 4 étapes ou 4 points de jonction dans l'histoire de Ruth et Boaz. La première, c'est la décision que Ruth prend. Combien m'ont déjà entendu prêcher là-dessus? Levez la main. La plupart d'entre vous, je pense, vous l'avez sur bande. Premièrement, Ruth dut décider si elle allait rentrer ou non dans ce pays avec Naomi. Elle dut prendre une décision. Après y être entrée, la chose qu'elle dut faire, ce fut de servir dans le champ de Boaz, y aller pieds nus pour glaner derrière les moissonneurs, les serviteurs. Puis, après avoir trouvé grâce aux yeux de Boaz, elle dut attendre jusqu'à ce que Boaz eût fait valoir son droit de rachat, en tant que parent, pour reprendre tout ce que Naomi avait perdu et pour faire entrer Ruth, la Moabite. L'étape suivante, c'est la récompense de Ruth. Maintenant observez, la décision de Ruth fut parfaite. Oh, si quelqu'un dit que la Bible n'est pas inspirée, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Chaque mot qu'elle contient est inspiré. Chaque mot qu'elle contient concorde parfaitement l'un avec l'autre, comme une queue d'aronde dans une planche. Cela s'assemble parfaitement comme les rouages sur la grande roue qui tourne. C'est réglé à la minute et même à la seconde. Maintenant, remarquez dans ceci la décision de Ruth. Elle dut prendre une décision qui était soit d'aller là-bas, soit de ne pas y aller. Elle dut prendre une décision. Or, c'est ainsi que doit agir chaque croyant. Vous avez dû quitter votre vieille tanière, vous avez dû quitter votre ancienne vie, vous avez dû quitter les vieilles choses du monde. Frère Roy, est-ce Sœur Rose qui s'est sentie mal? Oh, je pensais qu'elle était peut-être malade. J'allais dire, conduisez-la ici si elle se sent mal. Ils durent quitter leur vieille tanière de la vie, ou quelque chose comme cela, et entrer dans un nouveau pays peuplé de gens nouveaux qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Est-ce que vous avez fait lorsque vous êtes devenu chrétien? Vous avez quitté la piscine, vous avez quitté le nightclub, vous avez dû venir au milieu de gens qui avaient comme des spasmes. Ils tremblaient, pleuraient, secouaient la tête et faisaient des sons. Pour vous, c'était une bande de fous. Ainsi, vous avez dû prendre une décision pour savoir si vous iriez ou pas. C'est vrai. Et vous saviez qu'en faisant cela, votre propre peuple allait se moquer de vous, ceux que vous aviez quittés. Est-ce vrai? Premièrement, vous devriez automatiquement vous attendre à cela, parce que c'est ainsi que cela se passe. Ruth eut la même épreuve à traverser.
Qu'allaient lui dire les Moabites quand elles passeraient de l'autre côté pour aller en Israël, chez cette bande de fanatiques, voyez-vous? Elle dut prendre une décision. Elle dut décider, et vous devez décider. Finalement, qu'elle eut pris sa décision, elle entra dans le nouveau pays. Cela, c'est la justification. Est-ce vrai? Maintenant, observez cette église. Oh, c'est parfait. Vous savez, combien m'ont entendu prêcher sur la semence d'Abraham, montrant la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, voyez si c'est faux, si c'est vrai ou faux. Ruth, prenant une décision, est un type de l'Église, l'Église des nations. Elle prit une décision et entra dans le pays. Souvent, nous, méthodistes et baptistes, nous pensons que c'est tout ce que nous devons faire, alors que ce n'est que le commencement. Mais Ruth n'est encore arrivée nulle part. Elle n'a fait qu'entrer dans le pays. Ce qu'elle dut faire ensuite, ce fut de travailler. Elle devint une légaliste. Elle dut travailler à son salut avec crainte et tremblement comme vous. Elle jeta les vêtements sur elle, alla dans le champ et se mit à glaner derrière les servantes, afin d'obtenir de la nourriture fortifiante pour le jour. Est-ce vrai? Que faisait-elle? Elle essayait d'obtenir la faveur de Boaz. Ainsi, elle se fraya un chemin à travers l'étape du légalisme, et c'est exactement ce que l'Église a fait. Les luthériens l'ont cru par la foi et sont entrés dans le pays, mais les méthodistes ont enseigné la sanctification, ce qui était le point de vue légaliste, voyez-vous? Vous devez faire quelque chose, je dois laisser grandir mes cheveux, disaient les femmes. Bien sûr, elles ne le font plus, mais elles l'ont fait, elles ont laissé croître leurs cheveux. Elles ont dû cesser de se farder. Elles ne portaient pas de jupes courtes comme les autres. Elles devaient faire quelque chose, voyez-vous? C'est ce que vous avez fait quand vous étiez dans la justification et dans la sanctification. Quand finalement elle obtint la faveur de Boaz, qu'arriva-t-il? Naomi lui dit, « Attends ici, pendant que Boaz fait son travail de parent rédempteur. » Parce qu'il est le seul à pouvoir le faire. Il est notre proche parent qui a le droit de rachat et toi, attends simplement ici. Ne retourne plus au champ. Ne fais pas ceci ou cela. Attends simplement jusqu'à ce que l'acte de rachat par le parent ait été accompli. Alors elle se reposa. Amen. C'est exactement à cela que l'Église est arrivée en ces derniers jours de la Pentecôte. Voyez-vous? Au début de la Pentecôte, ils ont tous travaillé. Ils durent faire ceci. Ils les secouèrent et tout le reste. Maintenant que fait l'Église? La véritable Église se repose, simplement. Qu'est-ce que le repos? Le voici. Le repos, c'est le Saint-Esprit. Le jour du sabbat, les adventistes du septième jour veulent nous faire croire que c'est le sabbat du septième jour, ou quelque chose comme cela. Alors qu'Hébreux chapitre 4 dit, nous qui sommes entrés dans son repos, nous nous sommes reposés de nos œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Ainsi le sabbat, c'est le Saint-Esprit, et quand Ruth se reposait, c'était un type de l'Église qui se repose dans les promesses de Dieu. Nous avons maintenant le gage de notre salut. Nous ne sommes pas tourmentés pour savoir si nous allons là-bas ou pas. Nous y allons. C'est vrai, Dieu l'a dit. Dieu l'a accompli et nous avons le gage. Amen. Nous avons déjà été reçus. Christ nous a acceptés. Il n'y a maintenant pas moyen de s'en séparer. Nous y sommes. Amen. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'attendre jusqu'à ce qu'il prenne. Il est parti pour aller faire valoir son droit de rachat en tant que parent. Nous en avons en ce moment même le gage, et nous attendons le moment où il reviendra. Et ensuite, qu'arriva-t-il à Ruth? Elle fut récompensée. C'est ce que l'Église a fait. Elle est entrée dans la justification sous Luther. Elle est entrée dans la sanctification sous Wesley. Elle est entrée dans le baptême du Saint-Esprit en ces derniers jours, et maintenant, nous nous reposons avec le gage de notre héritage. Sachant que quelque chose nous arrivait. Nous avons passé de la mort à la vie et nous attendons et soupirons avec la nature après le jour où nous recevrons vie immortelle, une plénitude immortelle. Nos corps seront rachetés. Tout est racheté. Nous attendons simplement qu'ils reviennent de la porte. Amen. Ensuite, qu'arriva-t-il? Ruth fut récompensée. C'est à ce moment-là que nous serons récompensés. C'est ce que le livre des sept sceaux nous exposera. Quelles sont ces choses? Ce sont des mystères. Elles ne sont pas écrites dans la parole. Elles doivent être révélées par le Saint-Esprit. Mais si vous faites attention, elles ont été en fait révélées d'un bout à l'autre des Écritures. Mais elles ont été cachées aux gens. Quand nous arriverons au rouleau, vous verrez comment cela a été préparé, et vous saurez alors comment ces choses s'ouvraient. Maintenant, oh oui, se reposer. Ce que Ruth a fait, c'est la justification. Le voyez-vous, dites Amen. Ruth, sous la sanctification qui travaille, la partie légaliste. Et ensuite, Ruth se repose, attendant que Boaz revienne, une fois son œuvre terminée. Maintenant, notre Boaz a terminé l'œuvre au calvaire. Mais avant de revenir vers nous, revenir pour nous emmener chez lui, il part premièrement dans Jean 14 pour nous préparer une place. Oh, gloire! Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place, puis je reviendrai pour vous recevoir. Voyez-vous, Boaz s'en va. Que va-t-il faire? Il va à la porte, vers les anciens. Enlève son soulier et dit que l'on sache aujourd'hui que je rachète Naomi et tout son héritage. En même temps, il a reçu la Moabite. Et quand Jésus est venu, qui est-il venu racheter? Israël. Qu'a-t-il fait quand il prit Israël? Il prit l'épouse des nations. Il le fit assurément quand il prit Israël. Quand il est allé vers les siens, quelle est la première chose qu'il dut faire? Il dut racheter les siens. Et l'église des nations est une sœur de cette femme. De l'église israélite, certainement. Ainsi, il dut racheter Israël afin d'obtenir sœur. Il dut racheter Naomi afin d'obtenir Ruth, son épouse. Maintenant, qu'a-t-il fait avant de pouvoir la prendre? Oh, gloire, qu'a-t-il fait? Il est allé à la ferme. Je pense qu'il a tout nettoyé. Il a posé de nouveaux tapis. Oh, il se peut, il peut avoir construit une nouvelle maison. Dans notre cas, c'est une nouvelle maison. Et quand il eut tout préparé, il revint pour le mariage. Que faisait Ruth? Rien du tout. Elle se reposait. Elle attendait. Plus de labeur, plus de frustration. Dois-je être un méthodiste? Dois-je me joindre au baptiste? Dois-je être un presbytérien? Non, monsieur. Recevez simplement le Saint-Esprit et reposez-vous. Nous attendons la venue de ce grand jour du millénium. Gloire, que notre Seigneur béni vient enlever son épouse qui attend. Oh, la terre soupire et implore ce jour de douce délivrance. Nous tous, la nature elle-même soupire. Les feuilles du figuier, tout attend le jour béni de délivrance, que ce parent rédempteur reviendra prendre son épouse. Maintenant, elle se repose sous la sanctification? Non. Sous la justification? Non. À la fois sous la justification, la sanctification est dans le repos. Dans Ésaïe chapitre 28, verset 10, il est dit, car c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là, retenez ce qui est bon, car c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que je parlerai à ce peuple, et voici le repos. Voici le sabbat. C'est là que l'Église entre pour attendre. Regardez comment il est venu à travers la justification, la sanctification, et maintenant dans le baptême du Saint-Esprit, se reposant, attendant. Maintenant qu'est-ce? Quand nous arriverons à ces révélations, vous verrez ce qui en est. Vous verrez que ces choses ne pouvaient pas être enseignées jusqu'à ce jour-ci. Il n'y avait pas, elles ne pouvaient pas être enseignées. Elles n'étaient pas révélées au Fils de l'homme. La Bible dit. Je peux vous montrer ici dans l'Écriture où il est dit que cela ne serait pas révélé au Fils de l'homme avant ce jour. Maintenant, nous terminons avec ces grandes choses bénies. Bon, très bien. Le verset 6. Déjà une partie du verset 5. Le vieillard, dans le verset 5, avait raison quand il dit « Voici l'agneau, Mais quand il regarda, il vit un lion. C'était un lion au lieu d'un agneau. Qu'est-ce que cela voulait dire? Son œuvre de médiateur était terminée. Il allait quitter sa position de médiateur à la fin de l'âge de l'Église pour devenir le lion de la tribu de Juda. Son œuvre de médiateur était terminée et il devait devenir un lion, ce qui représente un juge. Quand il prit le livre de la main, maintenant souvenez-vous, quand un homme partait racheter quelque chose, ne l'oubliez pas, quand un homme partait racheter quelque chose, il prenait un homme avec lui et allait à la porte de la ville. Là, il rencontrait les anciens et annonçait le but de sa venue. C'est ce qu'il faisait. Il allait à la porte et disait, « Je suis ici pour faire valoir mon droit de rachat en tant que parent envers cet héritage, et je suis ici pour me présenter devant les anciens de cette ville. » Voyez-vous? Et quand le Jean pleura, quelqu'un, comme je l'ai dit la semaine dernière, il dit que Jean pleura parce que personne ne fut trouvé digne. Mais ce n'était pas pour cette raison. Un homme sous l'influence du Saint-Esprit ne pleurerait pas pour ce qui n'est pas digne. Jean lui-même n'était peut-être pas digne. Personne n'est digne. Il n'a pas pleuré à cause de cela. Je crois qu'il pleurait de joie, parce qu'il avait vu tout le plan de la rédemption qui était écrit dans ce livre. Ce n'était pas parce qu'il y avait personne de digne, car là se trouve un agneau qui lui était digne. Ainsi il pleurait, « Oh, gloire à Dieu !» Maintenant écoutez, à ce moment-là, il se mit à pousser des cris de joie. Nous le voyons qui pleure de bonheur, parce que l'agneau avait pris le livre de la main de celui qui était assis sur le trône. Et dès qu'il l'eut fait, quand cet ange puissant cria, « Qui est digne ?» c'est qu'il recherchait un parent rédempteur. Et immédiatement, après avoir dit « Qui est digne de prendre le livre ?» quelque chose, Jean commença à pleurer. Alors, qu'est-il arrivé? Il vit le livre qui était là. Il était là, mais qui était digne? Il y avait là Gabriel, qui était digne, bien sûr, mais voyez-vous, ce n'était pas un homme, c'était un ange. Il y avait là Michaël, il était digne, mais ce n'était pas un homme, c'était un ange. Ainsi, cela devait être quelqu'un devenu une personne terrestre comme nous. Alors, quand il vit s'avancer cet agneau qui avait été immolé de la fondation du monde, quand il vit qu'il avait été immolé de la fondation du monde, Jean pleura. Amen. Il vit tout, voyez-vous. Aussitôt qu'il demanda qui était digne, il annonça à ce moment la venue du parent rédempteur. Et le voici, un agneau. Et que fit-il? Il s'avança vers le trône où l'Esprit de Dieu se trouvait et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et tous les vieillards se prosternèrent et dirent, « Tu es digne, parce que tu as été immolé. » Voyez-vous? Ensuite, il devint, alors son livre, ou du moins le livre de la rédemption, le livre de l'intercession dans les âges de l'Église, fut terminé. Maintenant, il devient le rédempteur. Dans les sept sceaux, il nous révélera la manière dont il a accompli cela. Maintenant, nous remarquons qu'en ce livre, que lorsque son œuvre de médiateur fut terminée, l'œuvre elle-même était finie. Dans les trois premiers chapitres, nous voyons son œuvre terminée dans l'Église. Mais maintenant, la rédemption doit être révélée. Qu'est-ce? Quand il prit ce livre, maintenant essaye de méditer profondément là-dessus, parce que si nous pouvons avoir ces sept soirées, vous pourrez le comprendre. Maintenant, si vous ne comprenez pas, levez simplement la main et dites, je ne comprends pas, voyez-vous, parce que je veux que vous soyez bien au clair là-dessus. Regardez, la rédemption, immédiatement après la fin de son intercession en faveur de l'Église, il se révèle en tant que parent rédempteur. Vous arrivez à suivre? Et maintenant, il va révéler à l'Église comment il l'a fait, et alors, si cette révélation a déjà commencé, cela prouve que nous sommes à la fin de la route. Maintenant, vous verrez si c'est vrai ou faux, tandis que nous parcourons l'Écriture. Nous découvrons ce qui était en train d'être révélé. Quelle est la révélation de la rédemption? Comment avons-nous été rachetés? Regardez simplement ce qui est arrivé ici, pendant ces quelques dernières années. La révélation du nom de Jésus dans le baptême d'eau, la révélation qu'il n'y avait pas d'enfer éternel, alors qu'on ne savait pas cela auparavant. Pensez à vos bien-aimés qui seraient pour l'éternité. Voyez-vous, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle à moins d'être sauvé. Si vous avez la vie éternelle, alors vous ne pouvez pas brûler en enfer pour l'éternité. Vous serez puni pour vos péchés, pour votre vie naturelle. Mais vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle en enfer. Si vous n'avez pas la vie éternelle, vous ne pouvez pas brûler pour toujours, parce qu'il n'y a qu'une forme de vie éternelle. Et je suis sûr que l'Église comprend cela. Or, de quoi s'agit-il? Quelles autres choses? Le plan de la rédemption? Regardez simplement ce qui nous a été donné dernièrement par le Saint-Esprit. Voyez-vous? La semence d'Abraham. Et quelle en est la révélation? La semence du serpent. Voyez-vous? Ce livre de l'Apocalypse. Observez que nous y arriverons, de quelle manière il se dévoile. Et je vous prouverai ici par les Écritures que c'est exactement la vérité. J'irai le chercher jusque dans la Genèse et je vous montrerai de quelle manière ce sceau s'ouvre et couvre la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Pensez-y, de la Genèse à l'Apocalypse, jamais personne ne fut baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. C'est un faux baptême. Je me suis trouvé l'autre jour devant environ 300 prédicateurs de la grande association pastorale de Chicago. Et j'ai prouvé cela jusqu'à ce qu'ils se mettent tous à pleurer. 70 d'entre eux voulaient venir pour être baptisés au nom du Seigneur Jésus. La semence du serpent est partie de la Genèse. Si la semence du serpent, s'il n'avait pas eu de semence, alors Christ ne serait pas venu au monde. Parce qu'il a dit, je mettrai inimitié entre ta semence et la semence du serpent. Ainsi, si la semence du serpent était un mythe, Christ aussi serait un mythe. L'Église de même serait un mythe. Non, ils existaient tous. Vous ne pouvez pas les séparer. Le serpent avait une semence. Et c'est cela qui les désarçonne vraiment. Pourquoi ne peuvent-ils pas le comprendre? Parce qu'ils n'en ont pas la révélation. Pourquoi ne viennent-ils pas discuter avec moi? La chair est à disposition tout le temps. Je rencontrerai n'importe qui. Je ne me disputerai pas avec eux, mais je discuterai volontiers avec eux. S'ils veulent les poser là-bas devant l'association, je veux que quelqu'un me dise où c'est faux. Ne restez pas dans un coin à parler de moi, mais venez me le dire en face. Faisons-le correctement. Venez ici et voyons qui a raison et qui a tort. Mais ils ne veulent pas l'accepter. En vérité, ils le savent bien, parce que ce n'est pas moi, mais c'est le Saint-Esprit, l'ange de Dieu lui-même que vous voyez. Qu'en est-il de ces jours où toutes ces choses arrivent et que l'ange du Seigneur se tient là? Il ne me serait pas possible de connaître ces choses, mais l'heure est venue. C'est ici que nous parlerons de ces sept esprits, de ces sept cornes aujourd'hui, Dieu voulant, vous verrez où ça en est. C'est dans l'heure dans laquelle nous vivons que ces révélations sont censées venir. C'est le livre de l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ. Et nous voyons dans le tout premier chapitre qu'il a révélé ce qu'il était. Maintenant, il est dans les sept sceaux révélant de quelle manière il a racheté la terre. Et dans l'un d'eux, c'était par le nom de Jésus-Christ. Là, voyez que la crainte fut enlevée du cœur des gens. Éternelle. La rédemption éternelle. La justification par la foi, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et quoi encore? Que nous sommes en sûreté pour l'éternité, faisant disparaître tout doute du cœur des gens. Si vous avez le gage de votre salut, Dieu vous a déjà scellé jusqu'au jour de votre rédemption. Éphésiens 4 ans dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Maintenant, comment allez-vous rétrograder? Il se peut que vous rétrogradiez, mais vous ne pouvez pas être perdu. Si vous dites simplement que vous êtes sauvé, je la montre que vous ne l'aviez pas au commencement. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, celui qui rend le culte étant une fois purifié n'a plus aucune conscience de ses péchés, dit Hébreu. C'est vrai. Ainsi, vous ne pouvez pas être un chrétien. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit et ensuite aller vivre dans le monde, car si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Ainsi, vous ne faites qu'écouter un faux son. Le diable vous a gonflé, mais si vous examinez votre vie avec la parole de Dieu et que cela montre que vous vivez en accord avec la Bible, alors vous avez la sécurité éternelle. Il n'y a rien à craindre. Ce que Dieu a promis, il le fera. J'incite quiconque à accepter cela. Commencez simplement votre marche avec cette parole. Et observez ce qui vous arrive. Frère, cela produira tout ce que Dieu a dit, tout ce que Dieu a promis arrivera. Je vous ai peut-être déjà dit que lorsque mon ministère a commencé, pendant environ 15 ans, cela s'est manifesté tout autour du monde, et pas une seule fois cela a failli. Pourquoi? Parce qu'à la base, je m'en suis tenu à la promesse de Dieu, sachant que c'était la vérité. Ne me faites pas dire que c'était à cause de ma grande sagesse. Car celui qui a révélé les secrets du cœur est le même que celui qui m'a montré dans l'Écriture que que j'ai commencé à prêcher il y a environ 30 ans, je devais demander à ma fiancée de s'asseoir de me lire la Bible. Je ne pouvais même pas la lire avec mon peu d'instruction. Sir Wilson, vous devez vous en souvenir. Quand Hope me lisait la Bible, elle s'asseyait et me la lisait. Alors je disais, écoutez ce qu'elle dit, faites simplement ce qu'elle dit. C'est tout ce que je peux vous dire. Et tous ceux qui l'ont fait sont devenus justes, c'est tout. Elle disait, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Je disais, combien le croit? Continue chérie. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit dans lui la vie éternelle. Je disais, combien croit cela? Écoutez ce qu'elle dit. Je ne pouvais pas la lire moi-même. Ainsi vous voyez, il m'était impossible de l'apprendre d'aucune école. Mais oh, combien j'aime l'école à laquelle je suis allé. Quelque part dans une petite caverne, les mains levées vers Dieu jour après jour. Quand le Saint-Esprit descendait dans sa douceur et commençait à se révéler, il disait, c'est comme ceci, et comme cela. Et pas une seule fois, un homme n'a pu trouver quoi que ce soit à dire à ce sujet. Malgré tout le fanatisme et tout le reste qui a balayé le pays, Dieu nous a gardés au-dessus de ça, et purs, et nous a envoyés tout autour du monde. Alléluia! Nous sommes à la fin des temps, frères, nous sommes à la fin des temps, c'est tout. Vers le soir, la lumière paraîtra. C'est exactement ce qu'il a dit. Maintenant, c'est dans le livre de la Révélation. Dieu se révèle et maintenant, au travers de ses grands mystères, il révèle le nom du Seigneur Jésus-Christ dans le baptême. Il révèle qu'il n'existe pas d'enfer éternel. Cela ne se peut pas. Il n'y a aucun passage dans la Bible qui déclare une telle chose. Cependant, il y a un enfer et un étang de feu où les méchants sont punis, mais ils sont finalement consumés. Cela durera peut-être 1 milliard d'années, mais finalement ils seront consumés, parce que vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle si vous n'êtes pas sauvé. Si vous brûlez éternellement, vous devez avoir la vie éternelle. La logique peut vous le démontrer. Voyez-vous? Comment pouvez-vous avoir? Combien savent que lorsque vous avez la vie éternelle, vous êtes sauvé? Ainsi, si vous alliez brûler pendant l'éternité, ne devriez-vous pas avoir la vie éternelle pour vous en rendre compte? Ainsi, cela n'a même pas de sens. Maintenant la sécurité. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a déjà glorifiés. Paul nous a dit dans le premier chapitre des Éphésiens que Dieu, avant la fondation du monde, nous avait prédestinés à être des fils d'adoption par Jésus-Christ. Jean nous dit ici dans l'Apocalypse que dans les derniers jours, l'ennemi, cet ennemi religieux, viendrait parmi les gens, qu'il y aurait des organisations, des cultes, etc., comme ils en ont aujourd'hui, et qu'il séduirait même les élus, s'il était possible, et qu'il séduirait tous ceux dont le nom ne fut pas inscrit dans le livre de vie de l'agneau de la fondation du monde. Comme vos noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Quand Christ fut immolé, il y a 1900 ans, non monsieur, avant la fondation du monde. L'agneau immolé avant la fondation du monde. Voyez-vous ce que cela a produit? Ses sceaux s'ouvrent, commencent à révéler le plan de la rédemption, montrant comment il l'a fait. C'est entièrement terminé. Maintenant, c'est presque la fin. Nous sommes à la fin des temps. C'est pourquoi ces choses sont révélées. Très bien. Maintenant, notre parent prend le livre de la rédemption, qui est scellé de 7 sceaux, de la main de son propriétaire original. Le propriétaire original, quand nous l'avons perdu au jardin d'Eden au travers d'Adam, il est retourné au propriétaire original. Mais il y avait un braconnier sur la terre, un intrus. C'est Satan. Il est venu et c'est un braconnier. Cette terre ne lui appartient pas. Elle appartient à Dieu. Mais c'est un braconnier, un intrus. Et je pourrais dire quelque chose maintenant, mais je ferais mieux de me taire. C'est le titre de propriété de notre rédemption, ce livre portant 7 sceaux. C'est le titre de propriété. Attendez jusqu'à ce que nous arrivions à ces sceaux. Il brise les sceaux, les révèle, et donne son héritage à son peuple. Il donne l'héritage dont lui a hérité. Il est devenu un parent rédempteur et nous le donne gratuitement. Tout lui appartenait, il est celui qui l'a racheté. Mais au lieu de le garder pour lui-même, il le redonne aux autres. C'est son amour pour nous. Oh, Satan, le possesseur de cela, non, l'intrus. Finalement, il ne veut pas l'abandonner tout de suite. Nous voyons un peu plus loin dans l'Écriture, je pense, c'est dans un autre chapitre, qu'il ne voulait pas le donner immédiatement et qu'il dut se battre pour cela. Mais finalement, quand Satan est amené à étaler son jeu, il fut jeté dans l'étang de feu. C'est vrai. Jésus, le nom de Jésus dans les évangiles, porte 4 titres de fils. Le saviez-vous? Jésus a 4 titres de fils dans les évangiles. L'un, c'est le fils de David, un autre, le fils d'Abraham, puis le fils de l'homme, et encore le fils de Dieu. Maintenant, observez, quand notre parent rédempteur devint Jésus-Christ, devint le fils de David, soit un héritier du trône. Gloire! Il a hérité du trône en étant un fils de David. Dieu avait dit qu'il ne laisserait jamais David sans postérité. Et Christ est le fils de David. Et il est devenu notre parent rédempteur. Il attend, il est en train de préparer une place afin de pouvoir régner avec nous. En tant que fils de David, il est l'héritier du trône. En tant que fils d'Abraham, il est l'héritier de la concession royale. Amen. N'est-ce pas? Il est l'héritier de la concession royale. Amen. La Palestine est tout ce qu'elle contient. La semence d'Abraham. Il était le fils d'Abraham. En tant que fils de l'homme, qu'a perdu l'homme? Il a perdu la terre. Ainsi, en tant que fils de l'homme, il est l'héritier de tout ce qu'il y a sur la terre. Tout ce qu'il a reçu nous a été rendu. Alors il retourne à ce qu'il était. Ainsi, en tant que fils de Dieu, il hérite de toutes choses. En tant que fils de David, il hérite du trône. En tant que fils d'Abraham, il hérite de la concession royale. En tant que fils de l'homme, il hérite de la terre. Et en tant que fils de Dieu, il hérite de toutes choses. Dans le ciel et sur la terre. Amen. Oh, c'est notre Rédempteur, c'est notre parent Rédempteur. Maintenant, remarquez. Oh, ceci me fait tellement de bien. C'est là que je reçois vraiment de la nourriture. Maintenant, livrez vos cœurs à Dieu quelques minutes. Écoutez ceci. Satan est un intrus. Il n'appartient même pas à ceci. Pendant 2000 ans, il s'est disputé la possession de la terre. Mais Christ est venu comme parent rédempteur et l'a racheté pour nous la donner. Mais c'est Satan qui la possède. Mais vous savez, un jour, il sera jeté dans l'étang de feu. Voyez-vous, il sera détruit, lui et tous ceux qui l'adorent. Mais les héritiers du salut reviendront avec Christ. Maintenant, c'est un intrus. Souvenez-vous que dans l'Ancien Testament, si un homme perdait son héritage et qu'un intrus vienne sur sa terre, il ne pouvait pas la garder pour lui plus de 50 ans. Après 50 ans, il y avait l'année du jubilé. Et lors de cette année du jubilé, tout retournait à son point de départ. Tous les esclaves retournaient à leur point de départ. Si un homme s'arclait dans un champ et qu'il entend une trompette sonner, il pouvait jeter sa binette par terre et dire, « Je ne suis plus un esclave, j'ai le droit de retourner à la maison auprès de ma famille. » Tout était rendu. Si un intrus était sur le domaine, il devait s'en aller. C'est tout. Il devait s'en aller. Pourquoi? Parce que le propriétaire légal revenait. Il devait s'en aller. Alléluia! Un de ces jours, les royaumes de ce monde tomberont et les propriétaires légaux reviendront. Un de ces jours, amen. Il y eut une fois une dispute à ce sujet. Depuis le 40e jour, depuis le premier jour de la purification du sanctuaire ou lorsque Christ alla au calvaire, il y eut 40 jours jusqu'à l'ascension. Il y avait une discussion pour savoir si le groupe de Satan prendrait son corps et dirait qu'il n'est pas ressuscité des morts. Alors ils commencèrent à publier que ses disciples étaient venus et l'avaient volé pendant la nuit. Vous avez lu la Bible. Ils dirent que ses disciples étaient venus et l'avaient volé pendant la nuit. Même, ils soudoyèrent des soldats pour déclarer cela. Mais il y avait une question et tout le monde était partagé à ce sujet. Eh bien, peut-être que cela appartient effectivement à l'organisation et que le tout lui appartient, mais le 50e jour! C'était le jour de la Pentecôte, que le propriétaire légal descendit. Alléluia! Il montra que ce n'était pas une organisation, mais une visite du Saint-Esprit qui avait été promise. les arts pour l'Église montrent ainsi qu'ils ne seraient pas contrôlés par les organisations, etc., et que ce serait le gage du baptême du Saint-Esprit avec la puissance et l'amour de Dieu. Amen. Oh, cela ne vous fait-il pas quelque chose? Le possesseur légal, où cela se trouvait-il? Dans la main de Dieu. Et sur le, vous voyez, ne peut pas le garder plus de 50 jours. Vous pouvez lire cela dans le Lévitique, vous voulez parler des lois. Il est dit, ne pouvait pas le propriétaire original, cela devait retourner dans la main du propriétaire original après 50 ans. Nous le savons tous. Nous l'avons lu de nombreuses fois, voyez-vous. Cela devait retourner au propriétaire original après 50 ans. Ainsi, après ces 50 jours, années, une année, un jour représentant une année, depuis le jour de la crucifixion, où il s'était saisi de ce pardon rédempteur et l'avait mis à mort, le jour de la Pâque, il y avait un débat à ce sujet. L'Église avait cru jusqu'à ce moment-là qu'il était un pardon rédempteur, qu'il était le rédempteur. Ensuite, que se passa-t-il? L'ennemi le fait mourir, et on dit qu'ils avaient pris son corps et l'avaient caché quelque part. Et les gens étaient dans le doute au sujet de ce qui lui était arrivé. À la fin du 50e jour, vous voyez, il ne pouvait plus y avoir de dispute à ce sujet, car Dieu, au lieu de continuer à marcher avec cette vieille église orthodoxe, froide et empesée, envoyait le Saint-Esprit, chassa tous les intrus et en prit possession. Amen. La puissance du Saint-Esprit descendit, et l'église reçut le gage de son salut. Maintenant, frères, sans chercher à blesser vos sentiments ou quoi que ce soit à ce sujet, si l'organisation est juste, et que vous soyez simplement un catholique d'organisation ou un baptiste d'organisation, vous êtes perdu. Voyez-vous, car le gage de notre salut n'était pas dans le fait de se joindre à une église. Le gage de notre salut n'était pas d'appartenir à une organisation. Le gage de notre salut, c'est le baptême du Saint-Esprit, sans aucune organisation. Amen. Ils ne purent pas le retenir, car le 50e jour, quand le 50e jour fut écoulé, parce que c'était le jour du jubilé où tout allait retourner à son point de départ. La puissance de Dieu retourna à son point de départ le 50e jour, l'année du jubilé, quand tout retourne au point de départ. Il viendra une autre année du jubilé, et nous y sommes arrivés. Si vous prenez garde, la Pentecôte est tombée en Amérique il y a environ 50 ans. Cela fait 50 ans environ que la Pentecôte a commencé à tomber. Maintenant, qu'est-il en train d'arriver? L'Église reçoit le livre de la révélation de Jésus-Christ scellé de sept sceaux. Et pas un dixième d'entre eux ne peut le recevoir. Mais quand vous commencez à voir l'année du jubilé, où nous n'avons plus à discuter, à nous fatiguer, à lutter comme ceci, car nous sommes déjà en sécurité en Christ, nous avons déjà le nom du Seigneur Jésus-Christ dans le baptême, nous avons tous ces grands mystères que nous allons apporter dans les sept sceaux, et en vous prouvant que c'était les sceaux scellés aux yeux des gens. Avec l'aide de Dieu, je vous prouverai qu'il ne pouvait pas voir cela par la Bible. Bien sûr que si la Bible disait, vous le croiriez. Je vous prouverai qu'il ne pouvait rien voir d'autre que Père, Fils et Saint-Esprit jusqu'à ce temps. Il ne pouvait pas voir qu'il n'y avait pas d'enfer éternel jusqu'à ce temps. Il ne pouvait pas voir qu'il y avait une sécurité éternelle jusqu'à, je veux dire, pour le véritable croyant. Bien sûr, il y a eu une contrefaçon de ceci, un son confus au sujet des dons. C'est la raison pour laquelle les gens ont dit, regardez les presbytériens et les autres, ils fument, boivent et tout le reste, et ils disent qu'ils ont la sécurité éternelle. Oui, mais voyez-vous, c'est pour se débarrasser de la vraie trompette. Regardons d'ici pour voir si lorsque leur trompette sonne, cela va de la Genèse à l'Apocalypse, ce sceau étant ouvert et ces choses révélées. Voyez-vous? Oh, frère, je pensais que je vais devoir laisser cela de côté jusqu'à ce que je revienne ici une prochaine fois. J'ai encore environ 6 pages. Non, nous avons encore un service de baptême. Laissez-moi néanmoins lire quelques-uns de ces points que j'ai notés. L'année du jubilé. Très bien. Vous inscrivez tous les passages d'écriture. Jérémie 32, depuis le verset 6. Si une fois chez vous, vous voulez le lire. Maintenant, Jérémie, pour vous permettre de voir ce qu'est ce rouleau, maintenant, pour en finir avec ceci, occupons-nous tout de même de ce rouleau. Cela me prendra environ encore 10 minutes. Le rouleau, maintenant souvenez-vous que le livre était scellé. Un livre du temps de la Bible n'était pas un livre à 4 angles comme celui-ci. C'était un livre comme ceci, qu'on appelait un rouleau. Combien le savent? Assurément, c'était un rouleau. Très bien. Ce livre était scellé de 7 sceaux. C'était la Bible, elle était scellée de 7 sceaux. Maintenant, observez comment c'était fait. Jérémie, quand il allait être, Il prophétisa qu'il serait déporté, de Jérémie au chapitre 32, d'aller être déporté à Babylone, qu'il serait retenu en captivité pendant 70 ans, selon la prophétie. Vous qui lisez la Bible, vous avez lu cela de nombreuses fois. Il allait être emmené là-bas et rester 70 ans. En fait, il était le plus proche parent de son cousin, qui était décédé. Son cousin H-A-N-A-M-E-E-L, Hanamel. Il était son proche parent. Et il savait que l'ennemi allait prendre les papiers de sa propriété. Mais il savait que Dieu n'abandonnerait jamais son peuple, afin que lorsqu'il reviendrait, il puisse entrer en possession de l'héritage qui lui revenait. Voici ce qu'il fit. Il avait rédigé le tout. Combien l'ont déjà lu? Très bien. Ainsi vous l'avez lu. Très bien. Il l'a pris et l'a scellé exactement de la même manière que ces rouleaux ici. C'est la chose la plus extraordinaire que vous ayez jamais vue. Maintenant, je vais essayer d'illustrer ceci avec ce morceau de papier. Je ne sais pas si je vais y arriver ou non. Voici la manière dont c'était écrit, comme ceci. Il l'a rédigé, puis l'a scellé comme ceci. Il a fait ainsi pour chacun. Ce qui est arrivé dans chacun de ses sceaux était écrit ici autour. Son héritage, ce qui était arrivé, tous ceux qui étaient tombés avant lui, et comment il était venu pour en hériter. Tout était scellé comme cela. C'est ainsi que Dieu a procédé avec son livre scellé de sept sceaux. Maintenant, alors qu'il déchire ceci, cette révélation fait tout le tour sur le dos du livre. C'est pourquoi vous pouvez prendre le nom de Jésus-Christ et le faire aller de la Genèse à l'Apocalypse et découvrir que Père, Fils et Saint-Esprit n'existent pas. Voyez-vous? Cela fait tout le tour de la Bible. Cela la révèle. Ensuite, vous faites comme s'il y avait un enfer éternel. Vous ôtez ceci et vous en faites tout le tour. Et vous voyez qu'il n'y a jamais eu d'enfer éternel. Parce qu'au commencement, Dieu dit que l'enfer avait été créé pour le diable et ses anges, en vue de leur punition future. Alors, si l'enfer est éternel, comment aurait-il pu être créé? Le mot création n'a jamais, le mot éternel n'a jamais commencé, ne peut jamais avoir de fin. Ainsi, si l'enfer est éternel, il a toujours existé. S'il y a eu un enfer en même temps, il y avait eu, alors un Dieu en même temps qu'il y avait un enfer. Il y aurait eu un enfer avant même qu'il y eut le péché. Oh, vous ne pouvez pas y arriver. Ainsi, regardez si ces choses se déroulent ainsi. Cela fait de nouveau le tour et ouvre le livre. Ceci, en fait, nous donne une image de la Bible entière, et les sceaux ont caché la Bible aux yeux des âges et des intelligents. Et Dieu, par le Saint-Esprit, les ouvre comme ceci et les révèle au travers de la Bible. Gloire à Dieu. Maintenant, frère, laissez-moi vous dire que cela remue ma gastronomie spirituelle. Voyez-vous, maintenant, regardez ici. Comprenez-vous ce que je veux dire? Voyez-vous, le voici, le sceau. Maintenant, si vous observez, lisez ceci, allez dans Jérémie et regardez de quelle manière il l'a scellé. Maintenant, voici le livre, c'est écrit là-dedans. Maintenant, juste à temps pour la première révélation, il ouvre ce sceau. Alors regardez, voyez ce qu'était ce premier sceau, que nous arriverons au sceau. Quand c'est le moment pour le second sceau, il enlève le sceau suivant. Et savez-vous où nous en sommes? Nous en sommes presque sur le septième sceau en ce moment. Et quand le septième, que le premier sceau fut ouvert, la première trompette sonna, la première plaie tomba. Quand le sixième sceau s'ouvrit, la sixième trompette sonna, la sixième plaie tomba. Observez cela, c'est la chose la plus belle que vous ayez jamais vue. Et quand j'y serai, je me procurerai un grand tableau noir. Je l'apporterai ici et je l'utiliserai pour vous enseigner. Nous prendrons ainsi tout le temps nécessaire pour chaque sceau. Revenons en arrière. Revenons en arrière dans l'histoire pour vous prouver que c'est arrivé. Tout en vous montrant dans la Bible que cela devait arriver. Voyons ainsi exactement quand c'est arrivé, la date et tout le reste. Je l'ai, amen, et ce que cela révèle, c'est vrai, c'est le sceau. Quand Jérémie écrivait ce livre, le sceau, voici quelque chose de bien que je désire que vous remarquiez. Vous l'avez tous lu, ce livre scellé. Maintenant, souvenez-vous, il allait être absent. Il avait prophétisé à ce sujet. Il ne le savait pas seulement au travers de la prophétie. Me suivez-vous? Par la prophétie et la révélation de Dieu, il sut qu'il allait être éloigné de ce pays durant 70 ans. Vous vous souvenez, lorsqu'il a prophétisé qu'il serait 70 ans en captivité, c'est pourquoi il voulut être sûr que ce sceau de son héritage serait gardé, parce qu'il avait hérité de l'héritage de son cousin. Ainsi, Il avait tout rédigé légalement, et que fit-il avec cela? Afin que cela ne pourrisse ni ne rouille, il le plaça dans un vase de terre. Elle le rangea quelque part afin que cela ne pourrisse ni ne rouille jusqu'à la fin des 70 ans. Gloire à Dieu! J'espère que vous saisissez cela. Voyez-vous ce que Dieu a fait? Il ne l'a jamais révélé aux sages et aux intelligents pour qu'ils se disputent à ce sujet tout ce temps. Mais il l'a placé dans un vase de terre et a créé son propre fils Jésus-Christ. Et en ses derniers jours, maintenant, il ouvre les seaux et le montre à son Église. Il avait gardé dans un vase de terre pour que cela ne pourrisse ni ne rouille. Alléluia! Oh, je sais que vous pensez que je suis un exalté. Peut-être que j'en suis un. Mais voilà ce qui en est. Cela a été gardé dans un vase de terre qui a été racheté hors de la terre. Il s'est levé le matin de Pâques, car le sceau de la mort ne pouvait pas le retenir plus longtemps. Il brisa le sceau, ressuscita et le prouva. Il prouve lui-même en ses derniers jours qu'il est vivant. Il est dans son Église. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et cela a été caché au séminaire. Cela a été caché aux organisations. Et en ses derniers jours, il leur révèle par sa présence, parmi son peuple, s'il peut seulement trouver des personnes desquelles il peut faire sortir le monde et les choses du monde, la religiosité, afin de pouvoir parler à travers elles, révéler et ouvrir lui-même ses seaux comme ceci. Alléluia! Oh, ne l'aimez-vous pas? Oh là 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 là! Notre plan de salut, le même maintenant, est révélé en Jésus-Christ. Nous voyons de quelle manière il révèle ceci en ces derniers jours, à travers l'ouverture des sceaux. Personne, vous n'avez jamais entendu dire de votre vie que quelque chose avait été écrit au sujet de la semence d'Abraham, montrant qu'il avait traversé la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, et que cet ange viendrait dans les derniers jours et le dos tourné à la congrégation, il pourrait dire exactement ce que Sarah pensait dans son cœur. Ce n'est pas arrivé jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai, voici le jour. Et la foi d'Abraham est dans le nom du Seigneur Jésus. Maintenant, j'ai ici une chose, ou plutôt cinq, dont j'aimerais parler une seconde, aussi vite que possible. Regardez. Il y a 7 sceaux, et il y a 5, 7, dans le plan de Dieu de la rédemption. 5 est le nombre de la grâce. Combien le savent? I-E-S-U-S, fois en anglais 5 lettres. 5 est le nombre de la grâce. 6 est le jour de l'homme, et 7 est le jour de la rédemption. Maintenant, observez. Il y a 7 sceaux dans ceci, ou 7 étapes, dans le grand plan de la rédemption. Il y a 7 quoi? 7 sceaux relatifs à la rédemption. 7 esprits de Dieu. Nous trouvons cela dans, si vous voulez voir, vous voulez parler des 7 esprits, laissez-moi regarder ici une minute. Au chapitre 5, depuis le verset 6, je crois, nous voyons ici au verset 6, « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Que sont ces 7 esprits? Ce sont ces 7 messagers. Il y a Saint Colomban, et Irénée, et John Wesley, et Martin Luther, etc. Voyez-vous, les 7 esprits qui sont 7 hommes, 7 anges, qui sont 7 messagers, 7 sceaux, 7 esprits, 7 anges, 7 cornes et 7 églises. Vous voyez, 7, 7. Il y a 5, 7. 7 représentant la perfection et 5 la grâce. La grâce de Dieu s'étant manifestée au travers aux 7 âges de l'Église, à ses 7 messagers hommes, aux 7 esprits de Dieu, aux 7 sceaux de la rédemption dans lesquels nous sommes maintenant. Les 7 cornes signifient 7 âges parce qu'une corne signifie un royaume. Souvenez-vous, la couronne qui est venue sur la bête, qui avait une corne, dans Daniel, etc., voyez-vous, cela veut dire un royaume, ou 7 royaumes, 7 âges. Souvenez-vous que Jésus a dit qu'un homme parlerait de la première veille, un âge, un autre la veille suivante, l'âge suivant, le suivant dans la, jusqu'à la 7e veille. Et dans la 7e veille, l'époux est venu, et tous se sont réveillés. Vous souvenez-vous de cela? Ainsi, les 7 cornes sont les 7 âges de l'Église, et les 7 églises sont les 7 dispensations du corps des croyants. Oh, c'est tout ce qu'il y a de plus parfait. Jérémie, oh, le livre des âges, de quelle manière se furent rachetés. Le 7e est le dernier de ces sceaux, quand il est ouvert, se trouve dans Apocalypse chapitre 10. Il y avait un ange puissant, c'était Christ, qui descendit et posa un pied sur la terre et un sur la mer. Il leva la main et dit que le terme était arrivé. Il n'y avait plus de temps. Tout est terminé. Il n'y aura plus de temps. Et il a dit qu'au moment où cela sonnerait, le mystère de Dieu devrait prendre fin, à savoir qui est Dieu, comment il peut manifester, de quelle manière, quand ce sceau fut ouvert, nous avons commencé à comprendre comment il était le Fils de Dieu, il était Dieu lui-même fait chair, et la révélation de qui il est. Cela devrait être fini avant que cet ange puisse mettre le pied sur la terre et sur la mer et jurer qu'il n'y aurait plus de temps. Nous en sommes tout prêts maintenant, voyez-vous. Le dernier, c'est Apocalypse 10, un pied sur la terre et un sur la mer. Il n'y a plus de temps, la rédemption est terminée, et maintenant, il vient en tant que lion. Il était alors agneau, et maintenant, il vient en tant que lion de la tribu de Juda. Maintenant, laissez-moi lire le reste de ceci afin que je puisse vous le donner rapidement. Le verset 8. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants, les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. C'est le temps où tout doit être adoré. Maintenant, souvenez-vous combien opportun. Ne manquons pas ceci. Quand tous les mystères de l'âge de l'Église sont révélés, quand tous les mystères du plan de la rédemption, ces sept sceaux furent ouverts, immédiatement après ceci, maintenant regardez, c'est le moment où tout ce qui est dans le ciel et tout ce qui est sur la terre adore Dieu. Observez ce qui arrive. Écoutez une minute. Et ils chantaient un cantique nouveau disant, tu es digne, voyez cette adoration, les anciens, les êtres vivants, tous se prosternèrent devant lui, voyez-vous, comme ceci, quand il acheva son plan, c'est maintenant le temps d'adorer, voyez-vous. Et ils chantaient un cantique nouveau disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu étais immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Écoutez ces âmes rachetées qui élèvent la voix. Je regardais, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants, et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades, et des milliers de milliers. Tout dans le ciel adore cet agneau, voyez-vous, il disait d'une voix forte, l'agneau qui était immolé est digne, alléluia, alléluia, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Écoutez, et toutes les créatures, écoutez ce que j'en dis, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis, moi Jean, qui disait, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Jean doit avoir vraiment eu une Pentecôte à lui. Il a dit que toutes les créatures qui étaient dans le ciel, celles qui étaient sur la terre, sous la terre, et toutes celles qui se trouvaient dans la mer l'entendirent prononcer. Amen. Gloire, honneur, puissance et louange à celui qui est assis sur le trône. Cet agneau. C'est un don d'adoration. Amen. Comment l'ont-ils fait? Voici sa parole. Vous l'avez tous entendu. Et les quatre êtres vivants dirent, Amen. Tu as raison, Jean. Pousse des cris et loue-le autant que tu peux. On l'entendit dire, louange, Amen. Gloire, sagesse, puissance et force. Et les 24 vieillards se prosternèrent et adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Quelle merveilleuse histoire. Je n'ai pas le temps de prendre maintenant tout ce que j'ai écrit ici à ce sujet. Nous devrons attendre notre prochaine réunion pour pouvoir traiter de cela. Peut-être que je viendrai en vacances à la maison une prochaine fois. Je désire alors prendre ces 70 semaines de Daniel et les inclure à ceci. Je vous montrerai comment cela arrive au jubilé de la Pentecôte et comment cela nous ramène à ces sept sceaux sont ouverts ici, juste avant que nous entrions, montrant que c'est à la fin. L'agneau, le Messie, le Prince devrait venir. Cela devrait durer 70 semaines, soit 7 ans, qui ont été prophétisés à son peuple, et le Prince serait retranché au milieu de ce temps, c'est-à-dire après 3 ans et demi. La moitié de 7, c'est 3 ans et demi. Il est dit qu'il serait retranché et qu'on ferait cesser le sacrifice perpétuel, qu'on dresserait l'abomination du dévastateur, c'est-à-dire que la mosquée d'Omar se tiendrait aujourd'hui sur le lieu où se trouvait le temple qu'ils ont brûlé. Il reste alors 3 ans et demi à Israël. Christ est venu à prêcher et prophétiser 3 ans et demi exactement, et le sacrifice perpétuel fut enlevé. Tout est parfait. La mosquée d'Omar fut construite au même endroit et s'y trouve encore. Elles fouleront au pied les murs de Jérusalem jusqu'à ce que la dispensation des gentils prenne fin. L'Église est enlevée, l'épouse élue, et les deux prophètes, Élie et Moïse, retournent alors en Israël pour les 3 ans et demi qui restent. C'est la chose la plus extraordinaire quand vous la voyez exposée. L'aimez-vous de tout votre cœur? Comprenez-vous maintenant ce qu'est le livre des 7 sceaux? Qu'est-ce que nous l'avons maintenant eu dans le rouleau? Souvenez-vous qu'en ces derniers jours, il fut gardé dans un vase terrestre. Vous le comprenez maintenant? Et qui était ce vase terrestre? Jésus-Christ. Nul ne l'avait. C'est seulement à travers lui. Ce n'était même pas écrit dans la Bible. Si c'était écrit dans la Bible, c'était caché afin que vous ne puissiez pas le trouver. C'est vrai. Ainsi, c'est en lui que s'est révélé, dans ce vase terrestre, afin qu'il ne pourrisse ni ne rouille. Puis il vient en retirant et dit à son Église, « Voyez-vous, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Vous vous êtes toujours demandé si le pauvre pécheur brûlerait éternellement ou s'il serait annihilé au bout d'un million d'années. Eh bien, voici, c'est ainsi. Il n'existe pas d'enfer éternel. Cela ne pourrait pas être éternel parce que l'enfer n'était pas. Au commencement, je l'ai créé pour punir les méchants. Voyez-vous? De quoi avez-vous peur? Voyez, au sujet de la semence d'Abraham et de toutes ces différentes choses, ce n'aurait que le contour. Voyez-vous? Mais quand vous voyez Dieu ouvrir ses sceaux et montrer ce qui s'est passé, vous réalisez alors que vous ne pouvez pas vous séparer de ce livre. Ces sceaux, vous dites, « Oh, les sceaux voulaient dire quelque chose d'autre, frère Branham. » Attendez une minute. Cela doit se comparer à ceci, parce que c'était scellé au dos de ceci pour révéler ceci. C'est qu'est-ce? Qu'était-ce? Comme ici Jérémie. Vous dites, « Une certaine chose est arrivée. » Vous enlevez ceci, et voici ce que c'est. Très bien, vous déchirez cela, et vous regardez ici. Vous lui avez dit ce qui est arrivé. Très bien. Vous déchirez celui-ci, vous regardez, et vous voyez ce qui est arrivé. Voyez-vous, c'est semblable à celui, ce livre. Au dos, vous dites, je ne peux pas comprendre cela. Certains disent Père, Fils, certains disent Saint-Esprit, certains disent au nom de Jésus, ainsi de suite. Cela a été caché durant toutes ces années, mais maintenant le voilà. Il se déroule et montre qu'il y a seulement un Dieu. Il n'y a jamais eu autre chose qu'un seul Dieu. Et son nom est pareil à Matthieu 28:19, à l'effet de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père n'est pas un nom, Fils n'est pas un nom, et Saint-Esprit n'est pas un nom. Maintenant, comment allez-vous baptiser? Dans lequel de ces noms allez-vous les baptiser? Ce ne sont pas les noms. Alors, vous n'allez pas les baptiser dans un certain nom. C'est de nouveau cette école de prophète, voyez-vous? Alors, vous revenez en arrière à cet endroit ici, et vous repartez de là. Vous revenez en arrière, et vous allez à Matthieu 1. Et que faites-vous? Vous faites ressortir cela, et vous le reprenez ici. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Par 3 dieux, voyez-vous, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, pas Dieu le Père, le Saint-Esprit, hein? Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut, en songe, et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de Dieu le Père, du Saint-Esprit. Je pensais que Dieu le Père était son Père. Je dis ceci parce qu'il va bientôt y avoir un baptême. Je pensais que Dieu le Père était son Père. Maintenant, soit le Saint-Esprit et Dieu le Père sont une seule et même chose, ou alors il avait 2 pères. Dans ce cas, c'était un enfant bâtard. Et quel genre de Dieu avons-nous? Voyez-vous? Mais tout ceci arriva afin que ce qui avait été prononcé par le prophète de la part du Seigneur s'accomplisse. Une vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera Jésus. Est-ce vrai? Vous vous rappelez? Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Maintenant, voyez, que vous enlevez le sceau, quel est le sujet principal que vous découvrez dans Matthieu au chapitre 1er? Jésus-Christ. C'est exactement ce que Pierre a dit le jour de la Pentecôte. C'est ce que tous les autres ont dit. Bien sûr, cette bande de Romains sont venus en déclarer, oh non, il faut que nous ayons 3 dieux. Ils en ont 10 000 maintenant. Il y a des Marie, des Saint-Cécile, Saint-Marc, Saint-Télétel. Je crois savoir qu'il y en a 500 dans la ville de Mexico. Il y a quelque temps, une femme a été tuée par un de ses prétendants, se sont battus à cause d'elle, et l'ont tuée. Ainsi, on en a fait une sainte, et les gens vont à elle pour se repentir et tout le reste. C'est du spiritisme. Et voici que l'Église protestante vient avec tout ce qu'ils appellent le credo des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de la Sainte Église catholique romaine. Je crois dans l'intercession des saints, la communion des saints. Les protestants disent, sous serment de Dieu, qu'ils croient en la communion des saints. C'est du spiritisme. Ensuite, ils se mettent à le faire. Bien sûr, parce que l'Église a dit, « Oh Dieu, combien je suis heureux de savoir ce que je sais. Combien je suis heureux de savoir ce que je sais. » Ils ne réalisent pas qu'ils se scellent eux-mêmes loin de Dieu dans les ténèbres. Et vous ne pouvez pas le leur dire, parce qu'ils ne peuvent absolument pas le voir. Je désire poser une question. Personne n'a besoin de répéter plus loin. Il y a ici au moins 15 à 20 personnes qui sont coupables d'avoir pensé que j'étais Jésus-Christ. Comment ont-elles pu le faire? Je leur en voulais jusqu'à ce que je découvre. Dieu m'a dit que c'était un esprit. Or, ces hommes croient chacune de mes paroles. Et je leur dis, comment pouvez-vous dire que vous me croyez alors que je vous dis? Alors, nous sommes allés à la parole. Elles commencèrent à comprendre. Ils dirent, assurément, nous ne vous avons pas cru. Sinon, nous aurions écouté ce que vous disiez. Voyez-vous cela? Mais avant, ils pensaient vraiment qu'ils avaient raison. Ils étaient sincères. Voyez-vous que dans ces esprits, bien sûr, vous, ça y est, voyez-vous, il vous fera le croire absolument. Peu importe, personne ne peut vous dire le contraire. Voyez-vous, peu importe ce que la parole le dise, vous le croyez tout de même pas. Continuez simplement si vous voulez être ainsi. Allez-y, et moi j'irai mon propre chemin. Voyez-vous, cela montre que vous êtes loin du mauvais esprit. L'esprit de Dieu, que dites-vous à votre sujet, frère Branham? Je demande à quiconque, je suis toujours prêt à ce que quelqu'un me montre ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais cela doit venir, cela doit être dans la parole. Cela doit venir dans la parole. Ainsi, c'est là que les seaux se sont ouverts. Ne soyez jamais inquiets, car si c'est un sceau, il se fera connaître. De la Genèse de l'Apocalypse. Ainsi, voilà le sceau, ne l'aimez-vous pas? Je l'aime, parce qu'il m'aima le premier, et acheta mon salut sur le bois du calvaire. Inclinons nos têtes. Combien y a-t-il de personnes ici qui ne le connaissent pas comme leur sauveur et qui voudraient le recevoir dans leur cœur? Vous savez que je crois dans le fait d'aller à l'autel. J'y crois effectivement. C'est bien. Mais dans la Bible, ils ne sont jamais allés à l'autel pour être sauvés. Ils l'ont simplement cru dans leur cœur et l'ont accepté. Combien parmi vous veulent venir comme la Bible l'enseigne? Tous ceux qui crurent furent baptisés. Combien croient aujourd'hui? Elles ne l'ont pas fait auparavant, mais veulent confesser publiquement qu'ils avaient tort et veulent accepter Jésus comme leur sauveur. Voulez-vous simplement lever la main tout en gardant vos têtes inclinées? Que Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Là, tout au fond, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Maintenant, je crois, Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse cet homme. Maintenant, souvenez-vous. Ce n'est pas ici, mais dans votre cœur et devant Dieu que vous faites une confession publique. Seigneur, je sais que nous sommes à la fin des temps. Je suis fini. L'autre jour, je parlais à l'un de mes amis ici en ville, le docteur Sam Adair. Nous étions assis dans son bureau. Je lui dis, Sam, je me sens terriblement ballonné. Il me répondit, comment sais-tu que ce sont des gaz? Est-ce dans la région du cœur? Je lui dis, oui, c'est peut-être... trouble cardiaque, dit-il. Cela peut être un trouble cardiaque. Je lui dis, comment le sais-tu? Il dit, laisse-moi t'ausculter. Il m'examina et dit, non, il n'y a rien qui ne va pas chez toi. Je lui dis, Sam, lorsque ça viendra, j'ai 52 ans, et Sam est un peu plus âgé que moi. Mais je lui dis, quand ça viendra, Sam, c'est 30 années que j'ai consacrées à essayer d'obtenir que les gens croient en Jésus-Christ. Celui que j'ai aimé et pour lequel j'ai travaillé tout ce temps, il m'importe peu de savoir quand cela arrivera. Je sais que j'irai à la maison. Il me dit, Billy, tu sais où je reçois ma plus grande bénédiction, c'est en faisant quelque chose pour quelqu'un d'autre. Je lui dis, c'est la vraie vie. Si vous avez un héritage dans ce monde, mes amis, c'est un héritage corruptible. Mais nous recevons un héritage qui ne passe pas. Le fils prodigue partit et abandonna son héritage. Il en prit une partie avec lui. Quand il revint son héritage était souillé. Mais si vous partez loin du vôtre, ce n'est pas ainsi avec le royaume de Dieu. Nous recevons un héritage incorruptible. Ne voulez-vous pas le recevoir? Il y a environ 15 personnes qui ont levé la main. les pécheurs qui voulaient recevoir leur héritage ce matin. Y aurait-il encore quelqu'un avant que nous prions? Très doucement maintenant. En cet instant, nous t'apportons cet auditoire ce matin, Seigneur, dans cet état de faiblesse, après avoir essayé d'apporter ce message aux gens, parce que je les aime. Je désire qu'ils l'entendent, Seigneur, je désire qu'ils soient ancrés, je désire qu'ils sachent toutes ces choses qui sont arrivées ces dernières années. Ce n'est pas par hasard, c'était trop.